Bonjour à tous, bienvenue dans Un Bon Moment. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'il y a
C'est impressionnant.
On parlait pas, il y a eu un petit silence et d'un seul coup.
Baf. Oui, mais non, mais c'est bien, il y a des framboises. Bonjour à tous. Je vais tout de suite. C'est ouf. Bienvenue dans Un Bon Moment, je suis avec Navo et accompagné de Panayotis Pasco et Marina Rollman.
Bonjour.
Deux artistes, deux stand-uppers et stand-uppeuses qui ont leur spectacle qui est extrêmement drôle. Il y en a un qui est sur Netflix, Panayotis est sur Netflix, Marina on peut la retrouver sur MyCanal.
Absolument.
Donc c'est une base à voir aujourd'hui sur la nouvelle génération. C'est vraiment ce qui se fait de mieux, vraiment, allez le voir. Ce sont des torrents de gens qui parlent, qui sont drôles et tout. Et aujourd'hui, on les reçoit parce qu'ils écrivent en plus. Panayotis vient de sortir son premier roman qui s'appelle « La prochaine fois que tu mordras la poussière ». Et Marina vient de publier un texte dans un recueil de textes sur le désir qui s'appelle « Désirer ». Et les deux sont d'une extrême efficacité. Et il y a encore cette... Même si justement, il y a cette sincérité, on vous reconnaît. Moi, je vous connais dans la vie, je vous connais sur scène. Et quand on vous lit, on vous entend. Marina, on a envie de plus. On a envie de plus.
Bah écoute, avec plaisir. Mais c'est une nouvelle, effectivement. C'était ça la commande, mais j'aimerais bien écrire un roman. Mais je trouve que c'est très intimidant, la littérature. Je ne sais pas comment dire, quand tu te lances sur scène ou quand tu fais du scénario, tu dis qu'il y a des gens qui sont passés avant toi, certes, mais que c'est un format qui est un peu accessible et il y a un truc un peu démocratique, quoi. J'ai l'impression que la littérature, quand tu dis « je vais écrire un roman », tu te frottes un peu à 10 millions d'histoires. Enfin, il y a un truc qui fout les jetons, je trouve.
Mais Victor Hugo n'a pas eu besoin de lire Victor Hugo pour devenir Victor Hugo.
Et moi, je ne me suis pas posé la question. En fait, j'ai commencé à écrire. Je pensais que ce serait un spectacle. Et à un moment, en relisant, je me suis dit « il n'y a pas de blague
». À la boulette.
Ouais, merde, j'ai oublié les blagues. Fais chier. Bon, est-ce que ça se lit quand même? D'accord. Mais ça s'est un peu fait comme ça. Donc, j'avoue, moi, je ne me suis pas... Enfin, jusqu'à très, très tard, je ne me suis pas dit que ça allait être un...
Ah, c'est que tu avais la même démarche de recherche habituelle que tu fais dans ta vie, etc.
Ouais.
Pour la scène.
Pour
et
tout d'un
coup, tu as dit « et si c'était pas de la scène ?»
Ouais. Pour tout, en fait, pour... je pense qu'on fonctionne comme ça tous. On a des trucs où on écrit des idées ou des concepts ou des choses qui nous traversent et on ne sait pas où ça va aller. Il y a des fois, on ne sait pas où ça va aller. On se dit, ça va être dans une vidéo, ça va être dans un scénario, ça va être sur scène. Et là, je trouvais que ça allait nulle part, à part le texte en tant que tel.
Mais c'est-à-dire que dans le bouquin, quand tu parles du fait que tu écris le bouquin, c'est parce
qu'on
est déjà dans une phase où tu sais que tu es en train d'écrire un bouquin. Où tu as transformé
J'ai transformé beaucoup d'idées après. En fait, une fois que j'ai compris que ça allait être un livre, j'ai vraiment essayé de poser toutes les feuilles comme un territoire à conquérir. J'ai posé les feuilles partout. Et je me suis dit, OK, bon, je ne me reconnais pas encore là-dedans. Il faut que j'arrive à apprivoiser tout ça. Et j'ai un peu découpé à la machette, taillé des lianes. Et j'ai essayé de mettre en ordre. Et après, je me suis dit, OK, il faut créer du lien entre ça et ça. Comment je vais le faire? Je me suis posé et j'ai vraiment pris soin de mes plantes. C'est vraiment ça.
Ah, okay.
Et mais
tu l'as pas écrit en disant j'ai mon plan.
Par
et
exemple,
dans mon plan,
le dernier chapitre, c'est un des premiers que j'ai écrit.
Okay.
Et des trucs comme ça qui. Mais je m'étais jamais dit que ça allait être un. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est chapitré de cette manière. C'est des 5-6 pages à chaque fois.
C'est
ouais,
des flashs.
C'est un peu des flashs parce que c'est une idée que je développe. Comme si c'était une idée de sketch, quoi.
Il y a un truc dans vos deux textes qui surgit pas mal quand je l'ai lu, c'est le blocage émotionnel chez l'homme. Les hommes bloquent. On bloque le sortir, le je ne sais pas, je ne sais pas faire. Il y a un côté je ne sais pas faire. Il y a un côté, à votre avis, ça vient d'où?
C'est le patriarcat.
Ben oui, c'est intéressant.
Non, mais... Moi, ça me frappe. Alors, moi, donc, c'est une nouvelle érotique, donc ça parle plutôt de ça, c'est de l'expression des envies, du désir et tout. Mais c'est un truc que tu revois, par exemple, typiquement, c'est un truc qui m'attriste un peu dans le porno mainstream hétéro, c'est à quel point les mecs lâchent jamais prise. Il y a très peu de soupirs ou de gémissements de mecs, il y a très peu les mecs qui ont les yeux qui partent. En fait, il y a très peu de... Ils donnent du plaisir, ils sont extrêmement flattés par une actrice en face qui est super encourageante et elle est très... Enfin, le principe, c'est qu'elle fasse beaucoup de bruit pour te dire t'es vraiment super, t'es aimé, t'es désiré, etc. Mais les mecs, je trouve, ont l'air de prendre très peu de plaisir dans le porno. Et je pense que le poids du patriarcat, c'est de dire un homme, t'es actif.
Ouais,
t'es
ça.
Pénétrant, t'es ouais. Un chasseur, t'es désirant, t'es travailleur.
C'est le succès. C'est le
succès, tu donnes des informations, t'es ND, t'es tu es. Alors tu savais un petit peu comment s'est passé la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, tu vois, t'as besoin de. Tu conquiers tout le temps. T'es pas, c'est ta thématique, t'es peu pénétré du coup par le savoir des autres, par les émotions des autres, donc t'es pas dans le lâcher prise, moi, ça me déprime à mort, quoi. Quand je vois... j'ai toujours eu de la chance avec les mecs dont j'étais amoureuse, mais des potes, quoi. Où je me dis, typiquement, le lâcher-prise dans la sexualité, il a l'air super dur, quoi. De genre, et si on lâchait un peu la rampe, et tu prenais du plaisir, tu faisais une tête bizarre, et c'est pas grave, hein, tu vois, tous ces trucs-là, quoi. Et je pense que c'est pour ça que ça doit être super chouette quand t'es un mec hétéro de taper une nana. Parce que nous, on a tellement été éduqués dans l'autre sens et sociabilisés à faire du bruit, à montrer nos émotions, machin, ça doit être super chouette à jouer comme instrument, tu vois. Je pense que c'est un piano plus marrant, une meuf hétéro de base, tu vois, parce que ça fait du bruit et tout, que certains mecs, enfin, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des cas qui. Je sais pas, ils savent même plus trouver leur plaisir. Parce qu'en fait, le but de la sexualité, c'était.
Quoi.
Mais c'était, en fait, c'était d'arriver jusque à le moment où tu retires ma culotte. En fait, après, c'est gagné. Après, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois. Et alors que tu dis, bah, c'est maintenant que ça pourrait devenir marrant, tu vois. Mmh. Mais c'est dommage si c'est acté à ce
comme le trophée, quoi. Ouais. C'est bon, t'as eu le trophée. Bravo, t'as gagné la course. Alors que la course, elle commence.
Pression que la femme, le beau, le machin, c'est la biche. Le mec, c'est le chasseur. Et en fait, ce qui est étrange, c'est je crois qu'il oublie de se dire qu'il est dans le même monde que la biche. C'est-à-dire qu'au lieu de te dire, mais moi aussi, je pourrais me foutre à poil et on pourrait courir tous les deux dans ce champ, ça pourrait être super, tu te dis, genre, je n'aurai jamais cette grâce et cette beauté, donc je te chasse, je te coupe la tête, je te mets au mur. Et je pense qu'on n'a pas assez dit aux hommes que vous aussi, vous êtes gracieux, beau, beau quand vous êtes dans le lâcher-prise, beau quand vous prenez du plaisir et tout. Et du coup, on vous dit, genre, bon, alors tout ça, j'ai pas, mais je vais prendre l'autre qu'il y a pour. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu, c'est comme si tu externalisais la beauté, la grâce, tu disais, je l'ai pas. Puis tu dis, mais vous aussi, vous êtes super, en fait, viens. Enfin, on existe dans le même monde plutôt qu'un chasseur, un chassé, une image, un truc. Voilà.
Je suis tellement d'accord.
Tout est dit, hein, c'est bon, je pense qu'elle a tout dit.
Allez, merci pour cette notion
de la pénétration, je la trouve hyper, hyper intéressante. C'est l'incapacité à être vulnérable. Être vulnérable, c'est être pénétré par les choses, c'est laisser les choses entrer en soi. Et je pense qu'un homme, on ne nous apprend pas à être vulnérable, donc à partir de ce moment-là, on ne laisse pas les choses entrer en soi, que ce soit les gens, que ce soit les émotions, que ce soit quoi que ce soit une chanson. Peu importe, on laisse pas les choses entrer. Et du coup, c'est très compliqué de ressentir des choses quand on devient un bloc de granit, qu'on fait bloc, en fait. Mm. Et je pense qu'on est éduqué à ça. Parce que c'est plus simple de continuer à être actif quand t'es pas déstabilisé par un élément extérieur. Quand t'es toujours celui qui est le moteur, qui est en contrôle. Je le vois beaucoup avec mon père, dont je parle dans le livre. Il a cette capacité à bloquer tout et à continuer à avancer quoi qu'il. Et c'est, je pense, l'image qu'on a dans des hommes dans tous les films, dans toutes les histoires, tous les romans depuis la nuit des temps. C'est cette image de l'homme qui doit avancer coûte que coûte. Et c'est très compliqué d'avancer quand t'es pénétré.
Petite question aussi, il y a quoi derrière le... Parce qu'on dit les émotions, c'est le lâcher prise, c'est se faire pénétrer et tout, mais il y a quoi derrière ça? Une fois qu'on l'a... Donc là, on a les gens qui ne le font pas, c'est-à-dire qui refusent. Mais les gens qui le font, il se passe quoi?
J'ai l'impression que c'est plus ton domaine, c'est ce qui est exploré dans ton livre, je pense.
Ouais, bah, ouais, c'est compliqué, par exemple, parce que je pense que je commence à laisser les choses entrer.
Mm-hmm. Et donc à sortir.
Et bah, c'est ça qui est un peu compliqué.
Il y a un énorme embouteillage, ouais, cet homme est plein.
J'ai du cœur.
Dans le bouquin, t'es plus dans si je peux me permettre, hein, t'es en train tu te dis, ah, c'est ça qu'il faut faire. J'ai compris.
Ouais, ouais,
en fait, voilà ce que je fais depuis 8 ans.
Ah oui, non, je commence à peine à cerner ce truc. Mais je pense que j'ai un souci, c'est que j'ai du cœur, mais j'ai pas d'estomac. Et je pense que ça se joue là-dedans, en fait. Je commence à cerner que ça se joue au niveau des papillons dans le ventre, en fait. Et j'arrive pas à avoir les tripes de laisser les choses ressortir. Du coup, j'internalise beaucoup. Je ressens énormément de choses qu'avant je bloquais. Donc je les ressens. Mais j'ai du mal encore à les faire transiter pour qu'elles deviennent autre chose, pour qu'elles ressortent, pour qu'elles... Par exemple, je sais pas, avec des gens que j'aime, ça peut aller, entrer, mais j'ai du mal à le refaire sortir. Est-ce que ça circule, tu vois?
Attends, vois des gens... Bon, ouais, explique-moi plus précisément, j'arrive pas à la comprendre.
Je sais pas, avant, par exemple, admettons, tu m'envoies quelque chose, je le bloquais, donc ça rentrait pas. J'arrivais à jouer le fait que ça rentre, et j'arrivais à jouer... Maintenant, ça rentre. Je ressens quelque chose.
Ah.
Mais par contre, j'arrive pas à le laisser ressortir pour que ça rentre en toi à nouveau, pour D'accord. que ça devienne un circuit qui, je pense, est la base de la vie, quoi.
Attends, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, avant, je te disais « je t'aime », tu disais « moi aussi », mais ce qui se passait, c'était « je te
non,
dis ».
Non, je disais pas « moi aussi ».
Il le prenait.
J'ai bien compris je disais pas « moi aussi ». Je faisais bien semblant.
Ouais.
Tu vois, alors, si c'est pas « je t'aime », parce que « je t'aime », c'était très particulier, en plus, t'en parles dans ton spectacle, disons que c'est « je t'adore ».
Ouais.
Tu dis « mais moi aussi, je t'adore ». Mais en vérité, ce qui se passait, c'est que je disais « je t'adore », ça s'arrêtait là.
Ouais.
Et tu disais « qu'est-ce qu'il faut dire quand on dit « je t'adore » ? Il faut dire « moi aussi, je t'adore ».
Ouais, ouais.
Maintenant, je te dis « je t'adore ».
Ça me fait quelque chose.
Tu dis, oh, putain, il m'adore.
Ouais.
Mais tu réponds plus, je t'adore.
Non, en fait, bah, par exemple, c'est un bon exemple. Là, le livre est sorti et je fais des salons. Je commence à faire des salons, ce qui est trop bizarre comme, place pour moi, tu vois, d'être dans un salon avec des gens qui viennent, je sais pas, des gens de 60 ans qui me disent « J'ai eu votre bouquin, après Amélie nous tombe, et c'est trop mignon, et t'as des longues discussions et tout. » Avant, je bloquais tout. C'est-à-dire que les gens, ils me disaient des trucs, ça rentrait pas. Maintenant, ça rentre.
Des compliments sur ton spectacle et
tout. Rien, c'est jamais... Ah ouais, ça rentrait pas. Mais je pense que c'est un bon truc pour pas devenir une petite merde aussi. Mais c'est autre chose.
Moi, les compliments sur le spectacle, le truc, ça me passe au-dessus, mais 100 000 km, quoi.
Ouais, mais là, je sais pas comment dire. Des fois, c'est en plus, c'est un récit intime. Donc, je sais pas, il y a des gens, ils discutent de trucs, ils me proposent des trucs. Tu sais, ils me disent, ah, là, j'ai pensé, peut-être vous pourriez essayer ça ou autre. Comme dans la vraie vie, on pourrait se dire, essaie ça ou autre. Mmh. Avant, ça rentrait pas. Je me disais, laisse-moi gérer ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment te dire. Je me laissais pas influencer par les autres. Maintenant, ça arrive, ça rentre. Ça m'est arrivé là, j'étais au salon de Nancy et il y a un monsieur qui m'a raconté sa vie par rapport aux dépressions, parce que j'en parle dans le livre, et il m'a raconté des trucs et ça m'a vraiment chamboulé. Mais j'arrivais pas à l'exprimer. J'arrivais pas encore à lui dire ça m'a vraiment fait quelque chose, merci. Du coup, je restais là et je disais très bien, passez une bonne journée, je signe votre livre. Alors, Hervé, et c'est hyper bizarre. Et après, le mec, je te jure, il est parti pendant une heure, j'avais un truc encore qui gazouille à l'intérieur de moi.
Mais qu'est-ce qui ressortirait juste « Waouh, merci, ça me touche, ça t'arrive pas à dire ».
Mais je pense que c'est plus une question d'énergie qu'autre chose. C'est plus une question de circulation, tu vois. Mais moi, je vois des gens, j'ai des amis très amoureux. D'ailleurs, je te regarde toi parce que c'est un peu le cas. Je sais pas si on a le droit de le dire, mais
oui.
Très amoureuse. Et je vois quand ça circule. Je vois des choses qui rentrent, qui sortent. Je vois des trucs d'énergie. Moi, j'ai encore un peu de mal. J'arrive à le faire et je suis amoureux. Mais j'ai du mal à ce que ça circule de manière fluide, en fait. Je suis obligé de me concentrer pour que ça circule.
Mais tu le fais sur scène. Mais tu le fais sur scène.
Je le fais sur scène.
T'as de l'émotion sur scène. Quand t'as de l'émotion sur scène, tu peux pas fake une émotion.
Non.
Tu peux pas tricher l'émotion que t'as.
Mais c'est comme j'ai eu énormément d'émotions en écrivant ce livre. Et j'ai écrit des trucs que je saurais pas dire aux gens à qui je les ai écrits dans ce livre.
Mais sur scène, t'es en maîtrise.
Ouais, je suis en contrôle. En fait, je suis en contrôle de. Control the narrative.
Tu peux pas être en contrôle d'une émotion de.
Non, t'es en maîtrise. En fait, t'es en maîtrise. Comme t'es sur scène, tu sais, à cet endroit-là. J'ai certainement être ému et ce serait très bienvenu que là je me laisse accueillir et que je la donne et je la transmette aux gens. C'est maîtrisé.
C'est le bon moment.
Alors toi, t'es là.
C'est moi qui décide. Non, c'est pas du marketing de l'émotion.
Vous ne mentez pas.
Alors t'es tranquille, c'est le matin, tu bois ton café, quelqu'un apparaît en disant je t'aime. C'est pas la même situation que de maîtriser sur scène.
En fait, sur scène, c'est une safe place pour moi. C'est moi qui dicte. Et encore une fois, on parle. C'est moi qui pénètre les gens. C'est moi qui dicte ce qu'on raconte de A à Z. C'est moi qui dicte tout l'espace. C'est moi qui décore la pièce. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi, une fois que j'ai tout dicté, de me laisser envahir par les émotions. Et dans la vraie vie, si je pouvais faire ça avec les gens, si je pouvais dicter ce qu'une personne va me dire ou pas me dire et ce qui va se passer exactement, je pense que je pourrais me laisser libre cours à mes émotions. Mais ce qui est compliqué, c'est le fait que ce soit imprévisible. Après, je viens d'avoir 25 ans.
Non, mais c'est ça, il a 25 ans, il dit. Les mecs, il est dans une analyse de ouf. Je suis là, à 25 ans, j'étais là, je disais. Je crois que j'aime pas trop mon travail, il faudrait que je change.
Moi, j'étais là, genre, oh, bah, j'aime bien les chips. C'est tout.
On verra.
Non, je pense qu'il y a vraiment ce truc. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. C'est que t'es juste sur le chemin, quoi. C'est juste que t'as le recul nécessaire pour dire voilà où j'en suis du chemin. Alors que normalement, les gens, ils savent pas du tout que c'est en train de faire un chemin.
Ah oui.
Toi, il y a une espèce d'auto-analyse.
Mais c'est parce que c'est nos métiers.
J'en suis là, dans pas longtemps. Après, normalement, je vais ressentir ça. Puis après, si je me débrouille bien, je me donne encore un an pour ressentir ça. Mais il y a cette espèce d'impatience parce que t'es au courant.
Vous pensez qu'il y a des événements fondateurs un peu récurrents, à part le fait de passer sur scène, qui débloquent parfois les gars? Genre, ah, j'ai fait ce voyage en Colombie, ah, j'ai je sais pas quoi. Enfin, s'il y a des trucs, un peu des passages, la thérapie.
Les gens, beaucoup.
Moi, j'ai des potes qui font des thérapies.
Les gens. Si t'es en couple ou très proche d'une personne qui t'aide à débloquer ça, je
bienveillant, à quelqu'un de bienveillant, qui est patient, surtout quelqu'un qui est patient. Et je crois que c'est. Alors, je veux pas être mal interprété, mais je crois que c'est un des bienfaits de la dépression, c'est qu'elle t'empêche d'avancer.
Oui, t'as dit, maintenant tu gères. Maintenant tu gères.
Maintenant tu gères là ce qu'il faut, parce que là, on peut plus avancer. Je pense que c'est aussi un stop frontal pour dire il y a des trucs à gérer parce que là on peut plus rien ressentir.
La paternité, t'as eu l'impression qu'il y avait aussi un avant, un après ou t'avais déjà t'étais allé vers cette question avant?
J'ai beaucoup nettoyé là et je crois que j'ai nettoyé le dernier pavé là de ma vie.
Avant l'enfant,
ouais,
tu dis
je pensais même le contraire. Ouais, c'est parce que il avait réglé le truc qu'il a pu faire un gamin. Je pense.
Ouais. J'ai vraiment réglé plein de choses et c'est bizarre, mais j'ai réglé mon manuel émotionnel, genre comment ça, pourquoi j'ai des émotions, pourquoi j'ai des désirs. J'ai construit comment je construis mon désir, comment je construis mes émotions. J'ai rencontré une personne qui m'a aidé, qui m'a vraiment soutenu, qui m'a une patience extraordinaire et qui m'a autorisé aussi à avoir des défauts.
C'est
et je n'ai plus à être parfait. Et ça, mine de rien, c'est ce qui m'a beaucoup changé les choses, c'est que je n'ai plus à être parfait.
La vulnérabilité, c'est fou. Ouais.
J'ai le droit de... J'étais en quête de perfection permanente, en quête de... Ah, tac, tac, tac. Et c'est un truc qu'on a compris aussi avec Navo, c'est le côté genre... être humain, c'est avoir commis des erreurs, fatalement. Avoir commis des choses qui sont moins prestigieuses, où t'en as une moins fière. Et de toute façon, t'es là. Donc, autant avancer et autant te pardonner et autant essayer de demander pardon et d'avancer.
Je peux poser une question?
Bien sûr.
Le livre, t'as l'impression que ça te libère d'un truc sur la question du père et tout ça? Enfin, parce que moi, j'ai 35. Ça commence à me fatiguer énormément à quel point je me rends compte dans ma vie et quand je parle à des potes, à quel point on est encore dans ce truc genre oui, mais ouin ouin, parce qu'en fait, à 7 ans, mes parents... Et à quel point on ne se sort pas de genre, je sais pas, les 12 premières années un peu fondamentales. Et qu'après, tu ressasses. Et je vois ma rhum, elle a 60 ans, elle est là, genre oui, parce que ma maman, à l'époque... Enfin, vraiment, c'est fou, quoi. En ce moment, j'écoute vachement un podcast de Esther Perel, qui est une thérapeute de couple, et qui fait un podcast où chaque épisode, elle traite un couple. T'as une session entière, c'est incroyable. Et à chaque fois, c'est vraiment genre... Et pourquoi vous pensez ça? Bah, je sais pas, parce que... Non, pourquoi? Bah, parce que... Non, pourquoi? Parce que mon papa! Et ouais, c'est vraiment genre à chaque fois, c'est si fatigant! Ouais. Et je me dis genre, est-ce que t'as l'impression que du coup, tu vas peut-être un peu moins aller dans cet endroit-là et ressasser ce truc-là, maintenant que t'as... Parce que c'est une grosse purge, j'ai l'impression, quand même. Je me dis, je trouve ça ennuyeux, en fait, d'être toujours en boucle, tu vois, sur ce même tout petit endroit, quoi.
Parce que ça devient une excuse pour plus avancer?
Non, même pas ça. C'est juste de dire, genre, ah ouais, parce que j'avais ce problème. Parce que... Et tu sais que ça revient toujours un peu au... J'ai l'impression que c'est une map assez étroite, en fait, d'explication des choses fondamentales, tu vois.
Mais je pense que...
Tout vient d'une graine, un peu genre, ah putain, oui, enfin, d'accord, papa était vrai, un peu absent, tu vois ce que je veux dire, genre...
Tu crois que c'est pas vrai? Tu crois qu'il y a plus?
Non, c'est juste, je me dis, c'est étriqué, quoi. Que l'explication, bah, je trouve ça un peu genre, ah, d'accord.
Le plus dur, c'est sur les 6 premières années avant les souvenirs, quoi. C'est là où il y a tellement de choses qui se cadrent.
De 0 à 6, tu dis?
Ouais. Je crois. Bah, c'est la discussion que j'ai en ce moment avec.
Ouais, parce que t'es dans le bios direct. Quoi. Ouais. C'est genre, dans
la c'est genre bah là, on va discuter des choses avant vos souvenirs.
C'est les hypnothérapeutes qui disent ça. Je sais pas si tu sais ça. Ils disent t'as un souvenir, t'as un cerveau reptilien à ce moment-là, et que toutes les peurs et les machins, elles s'impriment en 2 secondes avant de développer la conscience, tu vois, tout ça. Donc tout s'imprime là, justement, ouais, de 0 à 5 ans.
Hypnothérapeute, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre, tu te connectes avec des sensations cheloues et tu te dis ouais, pourquoi j'ai ça. Mais c'est aussi ouf. Et c'est ça qui me fait extrêmement peur dans la paternité. C'est t'oublies ton gamin une fois.
Ah, tu
le
sens.
Le pire, c'est que tu ne sais pas. Le pire, c'est que tu ne sais pas. Moi, je vois, il y a des parents et tu sais, qui disent, ils répondent parce qu'à un moment, ils confrontent leurs parents. Et eux, c'est vraiment un jour, tu et eux, ils sont là, je n'ai aucun souvenir.
Ouais. Oh, bah, ouais.
Parce que tu dis, bah oui, c'est logique. Attends, c'était un samedi, ça a duré 3 minutes. Un samedi, 3 minutes dans le supermarché, j'ai tourné la tête et ça a marqué, tu sais pas pourquoi.
Ouais, ouais.
Le mec le est marqué à vie par ça. Mais vraiment, toi, dans
mais
ta vie,
non,
à toi,
ce qui me fait peur, c'est que nous, on est de l'autre côté. On est du côté de ceux qui on passe nos journées à essayer de se questionner sur ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc, je me dis, en tant que parent, je vois pas comment je pourrais faire vivre des choses à mes enfants et pas me dire mais ça va les marquer à tout jamais, mon Dieu, quelle horreur.
Non, mais c'est ça qui va être hyper marrant en plus, c'est ce qui va être une cata, c'est que tu vas baliser tous les trucs que tu anticipes.
Est-ce que t'as oublié,
et t'auras ton putain d'angle mort où il sera genre mais parce qu'en fait papa c'était les bagues le problème, oh non j'avais oublié les bagues.
Enfant, je t'en voulais de ne pas dire, de ne pas faire. Adulte, je comprends enfin que tu ne sais juste pas dire, tu ne sais juste pas faire. Donc là c'est vraiment genre c'est de l'empathie envers ton daron.
Ouais.
Je suis condamné par l'espoir, donc et celui d'une résolution pour nous deux.
Ouais.
Bah, je trouve ça fou de dire c'est moi qui vais faire le taf, en fait.
Bah, c'est ce que je me suis dit à un moment. Moi, je me suis dit, il va pas le faire lui-même. Donc,
Si je veux pouvoir survivre, c'est à moi de faire le taf.
Ouais, exactement. Bah, le livre, le postulat du livre, c'est mon père qui nous apprend qu'il est malade, qu'il va sûrement bientôt mourir. Et à partir de ce moment, je me dis, vite, il faut que je le tue avant qu'il meure. Psychologiquement parlant, évidemment. Mais je me dis, il faut vite que je le tue avant qu'il meure, parce que sinon, sa voix restera en moi à tout jamais, quoi. Mm-hmm. Et j'ai sa voix tout le temps en moi. Tout le temps, pour tout, qui me pousse à la perfection, d'ailleurs, qui me pousse à faire toujours mieux, etc. Qui me remet toujours en question, qui me dit de tout fermer, de fermer les valves. Donc, c'est une voix qui me pousse dans une direction qui ne m'intéresse pas forcément. Et je voulais la faire disparaître. Donc, très vite, je me suis dit, il faut que je le tue avant qu'il meure. Donc, je me suis rapproché de lui volontairement. Je retournais le voir parce que j'avais pris beaucoup de distance avec lui. Je retournais le voir de plus en plus pour essayer de tuer sa voix. Mais en fait, en m'approchant, je me suis rendu compte que j'avais énormément d'empathie pour ce monsieur. Et en fait, cette tentative de l'étrangler est devenue une espèce de câlin un peu bizarre entre nous deux, un peu gênant. Et c'est ce que raconte le livre. Mais du coup, ouais, y avait cette ambition de résoudre pour nous deux, de me dire je vais faire le taf, si tu veux pas le faire, c'est pas grave. En fait, je t'en veux pas. Pendant longtemps, je t'en ai voulu de pas vouloir faire le taf. Maintenant, je veux juste qu'il soit fait, donc je vais le faire.
Mais t'as l'impression, depuis que t'as fini d'écrire, ça t'habite un peu différemment ? Son rôle dans ta tête, il est un peu différent ?
C'est ça, je la pense pure, que ça a mis de l'horizontalité. Un peu, je pense. Ça a mis quelque chose de plus horizontal entre nous. On se regarde un peu plus dans les yeux, en fait. Il y a le regard est plus juste entre nous deux, je trouve.
Et ce serait ça, la purge dont tu parles ? Parce que je suis encore bloqué sur quand tu dis, est-ce que ça purge, tu disais, je crois ?
Ouais.
Ce truc ? Parce que j'arrive pas à comprendre, je crois, je vois pas le lien. C'est pour ça que je te demandais, mais parce que quoi ? Parce que c'est une mauvaise excuse de tout le temps dire... Parce que techniquement, à chaque fois, c'est les parents, c'est ce qui est logique. Parce
que je trouve ça juste un peu
ennuyeux. Ils t'ont neuroprogrammé. Ah, toi, tu voudrais qu'il y ait une vraie aventure, genre.
Bah, c'est petit, fait, tu vois, il y a un truc. Genre, et en fait, à 25 ans, j'ai pas pris la bonne sortie d'autoroute et depuis, j'ai envie de me faire enlever dans des stations-service, tu vois. Mais là, j'ai l'impression que c'est toujours genre, ah là là, papa était pas là à 6 ans, tu vois. C'est vraiment toujours genre, eh oui, bah, c'est toujours la même histoire. Enfin, non, mais en fait, je me dis, parfois, pour les psys, ça doit être fou quand ils t'écoutent parler pendant 30 ans.
Ah, moi, être psy, je trouve ça fou parce que je dis, mais je pourrais pas m'asseoir et écouter quelqu'un tourner autour du pot pendant autant de mois. Alors que moi, je me dis, c'est bon, c'est tes parents. Tu vois.
Me dites rien, c'est maman.
C'est tes parents, c'est toujours tes parents. Tu vois. Je pense que je suis obligé d'aller dans des trucs de trauma pour avoir des trucs un peu nouveaux.
Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un casting de psy parce que j'ai mon psychiatre qui m'a dit, il faut que vous trouviez une psychothérapeute. Et du coup, j'ai fait un casting de psy. Et c'est trop marrant. Je me disais, en combien de temps ils vont arriver à parler moi de vos parents ? Et ça variait entre 2 minutes à 20 minutes à 1 heure. Et c'était trop marrant, quoi. Maintenant, parlez-moi de vos parents. J'étais en mode, ça doit être. C'est la phrase culte. Il doit avoir des t-shirts entre eux, des mugs entre eux, psy. Parlez-moi de vos parents. Tu lui as dit au bout de combien de temps ? Quoi ? 30 secondes ? Mais t'es ouf, Martine ! C'est leur phrase culte, quoi.
Mais parce que c'est vrai, je pense. C'est un moment, ça sert à rien d'aller chercher.
Mais je pense qu'aussi, à un moment, il faut se dire, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, il faut construire dessus. Parce que je pense qu'il y a plusieurs phases. Il y a la phase où tu en veux. Moi, j'ai commencé à écrire ce livre dans une phase où j'en voulais à mon père. Et puis je pense que la phase dans laquelle je suis maintenant, c'est d'accepter ce qui s'est passé. Et c'est là où tu mets de l'horizontalité. C'est là où tu commences à tuer quelqu'un, d'ailleurs, psychologiquement parlant. C'est que tu te rends compte que cette personne n'est pas... a fait des erreurs, en fait, a des défauts. Et donc, moi, au début, je lui en voulais. Et maintenant, je me dis, OK, ça s'est passé comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme si. Je vais essayer de ne pas être de cette, peut-être de cette même... fait du même bois.
Mais si on commence à se multiplier dans des générations qui se posent tellement de questions sur le bidule, est-ce qu'on va fondamentalement changer l'humanité ? Parce qu'on sort quand même de dizaines de milliers d'années, on ne s'est pas du tout posé ces questions, et on était là genre, bah ouais, je suis un petit peu nerveux parfois. Tu vois, genre. Et
ouais, en 40 ans, ça a beaucoup changé quand même.
Défaillant
toute ta vie, tu penses pas qu'ils se disaient ça aux lumières, genre ?
Non, mais je dis, il commence à se poser la question, c'est sûr, mais que nous, vraiment, on se dit, genre, bon, bah voilà, je suis un peu plus serein, quoi. Ça va donner quoi comme. Bon, de toute façon, c'est un truc de niche, ça veut rien dire, c'est un truc de classe, enfin, c'est tellement trois personnes. Attends, donc juste, t'es la seule personne extrêmement saine, ou au contraire, follement malade et dans le déni, puisque tu es la seule personne ici qui n'a jamais fait de thérapie.
Bah, en fait, j'ai rien contre, mais j'ai jamais su trop quoi aller foutre là-bas. Et parce que souvent, quand je parle, je me rends compte que moi, vers la vingtaine, le premier truc que je me suis dit, c'est, ah, mais attends, les parents, c'est juste des gens. De base, qu'on fait ce qu'ils pouvaient. Et en fait, rapidement, je suis un peu allé chercher pourquoi ils sont comme ça. Et en fait, quand tu comprends pourquoi ils sont comme ça, tu comprends pourquoi t'es comme ça. Mais je pense que ma mère, elle m'a mis un bon terrain. Tu vois. En gros, elle, son principe, c'était... Alors, c'est comme si elle avait, je sais pas, Dolto, c'était incarné en elle, avec Mère Teresa et je sais pas qui, et que vraiment, elle est là. Elle dit, bah, un enfant, quand il pose une question, il faut lui répondre. Un enfant, il faut toujours lui expliquer quelque chose. Un enfant, il faut lui faire confiance. S'il n'est pas digne de confiance, il faut pas oublier que c'est un enfant. Et vraiment, j'étais là. Donc moi j'ai grandi, mais c'était que avec ma mère. Donc ce que j'ai dû gérer, c'est mon père. Parce qu'en fait j'avais une espèce de terrain super pour gérer mon père, qui en gros le seul service qu'il nous a rendu à mon frère et moi, je pense, c'est qu'il a dit je pue la merde. C'est-à-dire que quand mes parents sont séparés, mon père a vraiment dit non vas-y, gère-les, t'es super. Moi je vais là-bas quand ils veulent sortir au resto,
quand faire ils veulent un truc, Nintendo, tu m'appelles, mais sinon voilà.
Quand ils veulent jouer à la console, ils peuvent venir.
Genre, voilà. Il a eu conscience qu'il était très défaillant et qu'il avait été super quoi.
Jamais il s'est, tu vois. Et donc il y a un truc où il s'est pas mis en travers de l'éducation. Je crois qu'il a dit waouh, ouais, maîtrise de ouf, vas-y, termine, écris les enfants.
Mais t'as jamais des moments dans ta vie où t'as eu l'impression d'un truc de prison mentale, genre ok, là j'aimerais arriver à ça, mais j'y arrive pas parce que je me mets des bâtons dans les roues tout seul, ou cette tristesse je la dépasse pas, ou t'as jamais eu des trucs.
Si, mais c'est extrêmement léger, genre j'ai pas eu vraiment besoin, genre ça a jamais été un gros truc complexe qui fait qu'il faut absolument que j'aie un thérapeute, sinon je suis vraiment en train de partir en couille là. C'est des trucs où quand je cherche, je réfléchis, je dis si, tu veux toujours avoir raison, par exemple. Puisque ce qu'allait plaire à ma mère, c'est que je dise un truc intelligent ou un truc marrant. Donc c'est pour ça que j'aime bien au moins avoir l'air intelligent, avoir des lunettes et essayer d'être marrant. Mais en fait, il y a un défaut. Tu essaies de faire d'un défaut une qualité. Avant, je voulais tout le temps avoir raison. J'étais extrêmement agaçant. Je le reste. Mais sauf que maintenant, je me dis, attends, si tu veux vraiment tout le temps avoir raison, ferme ta gueule quand tu ne sais pas. trouve des formulations qui te permettent de t'échapper parce que sinon, tu deviens de mauvaise foi. Tu vois. Je dis, je sais que c'est comme ça. En fait, c'est très rare de me prendre à défaut en disant « Ah, t'avais tort », parce que si j'ai le moindre doute, je vais quand même parler, mais je vais dire « Il me semble que c'est machin, mais je suis pas sûr. » Parce que je me suis dit, si tu veux tout le temps avoir raison, aie vraiment raison. Sinon, tu vas juste te donner l'impression, tu vois. Mais c'est tellement léger.
C'est marrant comme manière de gérer son défaut. Tout le monde aurait dit « Peut-être qu'il faut que je travaille sur le fait de ne plus avoir raison tout le temps. »
Non, mais bah, de ne pas vouloir raison. Ouais. Si tu veux vraiment avoir raison, en fait.
Mais c'est marrant parce que de dire, gens si je veux vraiment avoir raison,
faut que j'y vais. Ouais. Quand je suis pas sûr.
Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu marrant comme manière de gérer.
Bah oui, mais avoir raison, c'est une forme de, c'est une forme de pas mourir aussi. Hein. Avoir tort, c'est une forme de c'est une forme
ouais,
de mort.
Là, c'est l'ego. Là, c'est quand l'ego veut avoir raison. C'est-à-dire que là, tu vas être de mauvaise foi. Parce qu'en fait, à un moment, ça m'a saoulé d'être de mauvaise foi. Parce que j'étais là, mais non, c'est pas comme ça que t'as raison. Avoir raison, c'est une qualité. En fait, je me suis dit, ça peut pas être un défaut. Vouloir avoir raison. C'est-à-dire que Einstein, il veut avoir raison sur l'univers. Personne disait, putain, t'es relou, arrête de remettre en question Newton. Mais parce qu'il n'était pas de mauvaise foi. Tu vois. Mais en retour, bon, je suis parti dans ma vie là. Mais en tout cas, pour dire, ce n'est pas une thérapie. Tu vois, je vais pas aller en thérapie pour ça. Et donc, j'ai plein de petits exemples comme ça, mais on dirait du développement personnel
après, niveau 1. Il est très. Je le pratique un peu, il est très conscient et très sincère de ses défauts et de ses problématiques. C'est-à-dire qu'il jamais il dira non, tout va bien. Mon truc là de
mais je pense que c'est le terrain de ma daronne vu qu'elle m'a donné confiance en moi. En fait, quand j'ai un défaut, ça me détruit pas du tout, tu vois. Tu me dis donc t'es pas très sportif, je dis c'est vrai et ça me fait absolument rien, tu vois. Je me dis pas qu'est-ce qu'ils vont penser de moi.
Ou sinon quelqu'un qui te dit mec tu pues la merde.
Ouais, bah, en fait je me dis il a le droit de d'avoir tort.
Ce que t'as dit là, c'était
génial. Waouh, ah c'est ça en fait la clé. C'est quand on fait un...
Bah, dans mon monde à moi, il a tort, parce que si je puais vraiment la merde, je me changerais. Par contre,
ce qu'elle a construit ta mère, là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'elle a construit une échine en or, quoi. Elle a construit une colonne vertébrale.
La confiance
genre.
En soi, ouais.
En fait, il vaut mieux partir trop confiant et avancer en humilité. Je pense que c'est plus facile à faire que de partir sans aucune confiance en soi.
Le vide est total.
Et monter en prétention, tu vois.
Ma femme, elle est très similaire à Navo.
Comme par hasard.
Très, très haut.
Confiance de gouffre en elle.
Comme par
tu peux lui dire non, mais ça c'est nul. Ouais, elle fait, c'est ce que tu penses, mais non, c'est pas nul du tout.
Et après,
mais Dieu, il fait pas l'unanimité, tu vois, comme dirait Youssoufa. Donc à un moment.
Est-ce qu'on ferait pas un petit jeu?
Ah, un petit jeu, lequel?
Un petit jeu. Alors, je vous propose deux, trois trucs. Il y a soit un multi-blind test. Vous connaissez le multi-blind test?
Non.
Six pistes mélangées et tout.
Six chansons en même temps, il faut deviner.
C'est ce qu'on ressent pendant une angoisse, normalement.
Ouais. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'allais dire, par contre, pardon, je reviens sur la conversation deux secondes, mais. Moi, je fonctionne un peu comme ça sur les défauts. Moi, souvent, on se faisait des bilans. Moi, je suis très, très pote avec la team Freddy, Anis, Aurélien Prévost, etc. Et on se faisait un petit truc tous les six mois où on se réunissait et on se disait chacun en rond, venez, on se dit qu'est-ce qu'on pense les uns des autres.
Et c'était, oh, wow.
Ouais, et c'était hyper cool. Franchement, je sais pas d'où c'est venu ce truc.
Mais c'était un peu trash ou le but, c'était de se vanner
on se disait...
ou...
Non, pas du tout. Ah, okay. Non, c'était hyper bienveillant.
Okay.
Il y en avait un qui se mettait un peu au centre et tout le monde disait... bah je sais pas, moi, par exemple, tout le monde m'avait dit « T'es agaçant, tu veux tout le temps tout savoir de tout, être en contrôle de tout. » Et tout le monde me l'avait dit.
Wow.
Et c'est hyper agréable. Et en fait, j'ai gardé un peu ce truc avec des potes. Et donc, mon rapport au monde, c'est ça. C'est des potes qui, de temps en temps, me disent « Là, tu... » Ou mes frères, tu vois. Je sais que j'ai très confiance en la vision de mes frères.
Ouais. Quand on te le dit, du coup, ça t'aide.
Mes frères, quand ils me disent « Là, en ce moment, t'es un peu... »
Tu rends hommage d'ailleurs à ton frère
qui m'a dit un truc il y a pas longtemps. Ça m'a... Et du coup, ça me travaille et je me repositionne. Par contre, là où les psy m'aident, c'est que je fais des grosses crises de paranoïa.
Oh,
et là, pour le coup, il n'y a aucun... et t'en parlais aussi, donc t'en fais aussi, mais il n'y a aucun truc qui rentre en compte parce que d'un seul coup, la confiance ne fonctionne plus. Ta raison ne fonctionne plus. Donc là, il faut vraiment de l'aide pour le coup. Donc,
quand ça m'arrive, le seul truc que je me dis, c'est si Navo me dit « Attention, là, tu dévies » ou quand ma femme me dit « Non, attention, là, tu dévies », le premier réflexe que j'avais avant, c'était de rejeter. Maintenant, le réflexe, j'ai réécrit ça, ce réflexe. Donc, tu réécris le réflexe. Tu t'entraînes, en fait. Tu t'entraînes à dire, OK, stop. Qu'est-ce que je dois penser? Je dois penser quoi, en fait, normalement, dans cette situation? Tu dois penser ça. OK. Problème de cette méthode, si tu tombes sur quelqu'un qui est manipulateur, tu descends aux enfers. En trois mois, t'as perdu 10 kilos et t'es une sous-merde. Quand t'es avec des gens de confiance autour de toi, je pense que la clé de ça... Bon, après, il y a la thérapie, les traitements, tout ce que tu veux. Mais la clé de ça, c'est... Je pense, c'est de dire faire confiance, la confiance. Si ton frère te dit non, faut que tu même de s'ouvrir, de dire je dois penser quoi. Et de se détacher
que
de ça.
Que t'es un ou deux garde-fous, que t'es un peu tes. C'est quoi dans Inception, la toupie, là, le truc qui dit genre est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est pour de vrai?
Moi, c'est des paranoïas sur des trucs. Pas des trucs.
C'est pas des
idées, ouais. des paranoïas sur des concepts un peu flous.
Mais c'est pas pareil, ça peut être plutôt des paranoïas, un peu de panique, etc. Ouais. De, à tout moment, quelqu'un va rentrer avec un gun et tuer tout le monde.
Ouais, par exemple. Ouais. Donc là, c'est hyper dur de dire qu'est-ce que je dois penser. Ouais. Parce que la personne, elle me dit que ça va pas arriver. Je dis, mais tous les gens qui se font attraper par une arme se disent ça, en fait. Donc, mais moi, c'est la même, le même truc que. Moi, c'est ce que j'ai, le seul truc que j'ai trouvé pour essayer de me détendre, ça calme mon pouls, mais ça calme pas l'angoisse, c'est de me dire les gens qui sont en panique dans l'avion, ils sont persuadés que l'avion va se crasher. Ils se disent pas peut-être que l'avion va se crasher. Ils se disent l'avion est en train de se crasher. Et du coup, je me dis, moi, quand je panique, je suis en train de me dire que c'est en train d'arriver. Mais c'est la même chose que les gens qui paniquent dans l'avion. Et du coup, ça me fait sortir de moi et je me dis, je crois que c'est ridicule. C'est pas en train d'arriver, c'est potentiellement en train d'arriver. Et ça met une petite distance, une distance de plus.
C'est bien. Surtout, là, c'est pas parce que les gens ont panique dans l'avion que l'avion va s'écraser.
Ah, bah, mon frère,
la panique et l'avion n'a rien à
voir.
Ça marche. Ouais, ça marche peut-être pas en cas de paranoïa, mais mon frère avait un truc un peu comme ça. On lui disait, est-ce que hier, tout était équivalent. Tu vois, est-ce que hier j'étais chez moi et les faits étaient les mêmes.
Ouais.
Et est-ce que hier je croyais que quelqu'un allait rentrer me buter.
Ouais.
Non. Ah, donc ça vient de moi. Et en fait, ça le permet d'amorcer un truc, de dire, ok, là, ça vient de moi. Puisque
un chamboulement. Ouais, c'est lui, pas un élément extérieur.
Tu vois, il est très cartésien, donc il dit, attends, c'est pas logique. Si lundi A plus B ça fait C, mardi A plus B ça fait C. Hier j'allais bien dans ma chambre tout seul. Pourquoi aujourd'hui je vais pas bien dans ma chambre tout seul? C'est que ça vient de moi. Et en fait, ça le fait amorcer un truc de toutes choses égales par ailleurs, j'allais bien hier. Donc,
J'ai Aurélien Prévost qui m'a donné une. Enfin, il m'en a parlé il y a plusieurs années, mais ça m'aide de temps en temps. Il me dit, quand t'es tout seul dans la rue et que t'as peur de te faire poignarder par quelqu'un, ce serait ouf que ça arrive parce que t'y as déjà pensé.
Je me dis tout le temps ça avec l'avion.
Ah ouais.
Mais après, je me suis toujours dit aussi, ça doit être hyper marrant pendant un crash d'avion d'être assis à côté de quelqu'un qui a eu peur toute sa vie et qui dit putain, je vous le dis depuis le début. Ça doit arriver. J'ai eu un truc, pardon, dernier truc. Cet été, moi j'avais une espèce de peur panique des requins depuis quelques années et c'était vraiment un problème. Et cet été, j'étais en train de nager dans des eaux turquoise, c'était trop beau en Italie. Et tout à coup, je me suis dit, mais en fait, de toute façon, c'est pas moi qui décide. C'est-à-dire que c'est pas si je nage un peu plus vite que je vais genre échapper à un grand blanc, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Et tout à coup, je me suis dit, genre, à partir du moment où c'est pas dans mes mains, comme le crash d'avion, ou comme le. Enfin, tu vois, le poignard, c'est pas parce que tu te retournes assez vite que tu vas échapper au gars. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et ça m'a vachement détendu. De me dire, ça peut arriver. Mais de toute façon, c'est pas moi qui décide.
Alors, on est dans le même camp. Enfin, parce que moi, c'est un truc que je dis, mais souvent, on me dit, non, mec, l'état dans lequel je suis, je peux pas faire ça. Alors que moi, je dis, je me dis, au pire, je me fais poignarder. Au pire, j'y peux rien. C'est-à-dire que si vraiment trois gars rentrent avec un gun et me butent, trois gars seront rentrés avec un gun. Tu vois, on me l'a dit depuis le début, tu meurs. Mais il y a des gens qui ont tellement peur de la mort qu'en fait, ça marche pas.
Mais moi, avec les requins, vraiment, je te jure, j'étais en peur panique. Je n'arrivais plus à nager dans genre Sado. Et vraiment, à un moment donné, je me suis dit, mais de toute façon, la hauteur de mes réflexes ou ma capacité de défense ou tout fait que c'est un tsunami. Donc, je peux pas. Enfin, tu vois. Et ça m'a un peu détendu, je sais pas pourquoi. Bref, pardon.
Si, moi, je vois bien pourquoi. C'est que tu te rends compte que tu n'y peux rien. Donc, puisque tu n'y peux rien.
Et
pour moi, c'est la réflexion générale. Mais est-ce que tu as peur de la mort en général? Est-ce que tu fais des crises d'angoisse sur la mort?
Ça va.
C'est ça, parce que ça marche pas avec les gens qui font des crises d'angoisse sur la mort. Parce que moi, je dis, au pire, on meurt tous. La personne va, c'est encore pire.
Un jour, j'étais dans un avion qui allait pas s'écraser, mais qui allait se poser sur une île.
Ben Mazuet. Piste. Ah non, c'est pas le blind test? Je croyais que tu faisais des paroles. Pardon, d'accord. Ok.
Un jour, j'étais dans un avion. C'est l'internet, ça.
Abdelmalik.
Track 4.
L'avion, à un moment donné, ça fait. Et tu sens que ça pleuvait de ouf. Il y avait un orage, mais vraiment, tu vois les éclairs. On est en Asie. L'avion fait.
Sur le continent asiatique ou vous êtes en Asie?
En Asie, on est tous en Asie.
Ah, ok, wow.
Là, j'espère que cette fois, ça va marcher.
Ah, wow.
Et on était là, notre plan de déroute. Et on arrive et t'entends.
La dubstep.
Et il redécolle.
L'avion redécolle au dernier moment. Et vraiment, je me suis dit, si je meurs là, franchement, bien ouais. Et le fait que je pense de me dire, franchement, jusque maintenant, j'ai fait une belle vie, quoi, c'était cool. Ça m'a mis dans un état d'apaisement. De me dire, franchement, là, je peux plus rien faire, mais tout ce que j'ai pu faire, j'ai essayé de le faire bien. Ok, go.
Un jour, j'ai failli pas du tout mourir, mais j'ai pris l'avion avec un des deux gars de Charlie et Lulu. Je sais plus quel des deux c'était. Et il y a eu des turbulences. Et je me suis dit, ma première pensée, c'était si je meurs, il y aura forcément un article de Payanotis Masco et Charlie de Charlie et Lulu sont morts dans un avion. Et tout le monde se dira pourquoi ils allaient en vacances ensemble.
Ouais, c'est incroyable. Ouais.
Mais c'est dans quel. Il y a un film ou une série comme ça où il y a quelqu'un qui dit ouais, j'étais dans l'avion avec George Clooney. Vous n'avez pas cet extrait, c'est un truc connu, je crois. Je trouve
non, mais si, Farid qui commence son spectacle avec j'étais dans l'avion avec Eric Zemmour. Et dit, ouais, c'est la première fois où je me suis dit, si je meurs, je suis un peu content.
Ah oui, non, là, c'est genre, si je meurs, les gros titres, ce sera pas mon nom, tu sais, c'est un gars, ouais, c'est un mec genre BoJack Horseman ou un truc comme ça. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, tu te rends compte que si là je meurs, tous les articles, ça va juste être George Clooney est mort. Personne ne saura que je suis mort.
Mmh. Bah, c'est comme c'est le gars qui s'est. Le jour de Michael Jackson. Et t'as un mec aussi d'un groupe de rock là, qui s'est suicidé le jour de la mort de John Lennon.
Je vais faire un move. Laissez-moi dire que ça va faire du bruit.
Ça va relancer les albums.
Il a dû se dire, là, tout le monde va en parler, ça va être ouf. Et non.
Multi-blind test. Qu'est-ce que c'est le multi-blind test, Navo ?
Le multi-blind test, je mets 6 chansons en même temps. Vous devez les trouver les unes après les autres. À chaque fois que vous en trouvez une, je la retire, ce qui rend la chose de plus en plus facile.
Il y a un Britney ?
Pardon ?
Non.
Elle millionnaire. Elle l'auto.
Ah, il y a le loto.
Elle le robillon.
C'est quoi le loto ?
Earth, Wind & Fire ? Je sais pas, j'ai tenté.
Non.
Celebration.
Ouais, Celebration.
Ah oui, Celebration de Cool and the Gang. Cool
ah ok. Bon, ouais, j'ai confondu avec Earth, Wind & Fire.
Il n'y a plus que 5 titres.
Dis-moi, merde.
Ah, c'est dis-moi. Je dois partir ou pas?
Il y a un peu un Despacito ou un truc d'un genre là, non?
Ah oui, putain, t'as bien.
Il y a Despacito,
joué,
non?
Ouais.
Il y a Despacito et il y a, dis-moi, des bébés brunes.
Des bébés brunes.
Attends, Despacito de Luis Fonsi.
C'est toujours un mystère, 3. Despacito. Et les étoiles ont. Cabrel, petite
Marie. Il y a Francis Cabrel.
Cabrel, petite Marie.
Qu'est-ce qu'il y a cette chanson ? Et maintenant, il y a deux morceaux, ce qui signifie qu'il faut trouver les deux avant de parler.
Oh, jeez.
Big Flo et Oli. Et. Merde, comment ça s'appelle ?
La tour, elle s'appelle comment à Paris ?
Montparnasse ?
Non, frère.
Remets.
Romain Duris, il a construit quoi dans le film ? Elle fera 300 mètres.
À quoi ? C'est non. À quoi, non ?
Pourquoi
non.
Je te dis la tour ? Je fais quoi comme grande tour à Paris ?
Eiffel ?
Oui.
Quoi ? Big Flo et Oli, c'est quoi ?
Bah, c'est Eiffel 65. Pas Eiffel 65. Pas du tout Eiffel 65. Mais l'avion, on est
quoi ? Bah oui, les avions.
C'est à quoi, non ?
Non.
Car à quoi c'est Barbie Girl ?
C'est
Dragostad.
Mais oui, mais le nom du groupe,
pourquoi est-ce que je l'ai mis ?
Ça commence par un.
Dommage.
Ozone. Mais pourquoi est-ce que je mettais FL65 Blue ? Je sais pas
t'es
pourquoi.
Dans ce clip.
Blue.
Qui a fait des millions de vues.
Mais oui.
Tu fais quoi dans
à la base, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « S'il te plaît, on n'a pas de comédien, ça tourne demain, il y aura Stromae. » J'ai dit « Grave, j'arrive, il n'y a pas Stromae. »
Ah, ça c'est toujours super.
Et le clip a fait genre 1 milliard de vues. Et j'étais en mode « On m'arrête beaucoup dans la rue pour me parler de ce clip quand même, j'avais pas prévu. »
Moi, mais finalement, t'étais avec qui ? Christian Clavier.
Non, il n'y a juste pas Stromae, ils n'ont pas remplacé.
Il y a un truc que je relève pas mal.
Moi, j'aime bien revenir sur le rejet, hein, ce qui nous l'a lâché comme une bombe tout à l'heure. Et, on a dit, ouais, attends, on a d'autres trucs à raconter.
Dis donc la mort, ça
t'as
va,
dit, mais... j'ai peur du rejet.
Ouais.
T'as pas plus développé plus que ça.
Non, je sais pas.
Je me suis dit, j'ai peur qu'il se sente rejeté si je lui pose pas la question.
Ça me fait plus peur que la mort.
Tu sais qu'on va t'aimer avec ce livre.
Ah, je sais pas.
Je te le dis, on va t'aimer. On va vraiment t'aimer.
Avec ce livre.
Quelqu'un qui accepte autant ses défauts, ça suscite le charme.
Quel défaut genre...
Quand il dit ouais, là, à ce moment-là, j'ai agi comme une merde, peut-être que je suis une merde, machin. Et quand tu dis ça, tu te dis bah, franchement, le gars a l'humilité de raccorder qu'il n'a pas été parfait sur toute la ligne. Et ça suscite, pour moi, ça suscite le respect. Quoi.
C'est paradoxal d'avoir peur du rejet et de proposer autant de choses au public. De constamment lui dire genre, et ça, t'aimes ? Ok, d'accord, et ça, t'aimes ? Enfin, tu vois, si tu restais dans ton coin, il y aurait moins de possibilités de rejet. Tu vois.
Bah ouais, bah là, c'est ce que. Avec ma dépression en ce moment. Enfin, je suis en queue de dépression, mais ma grosse dépression que j'ai eue en début d'année, c'était ça. C'était. Arrête tout, en fait. En fait, si jamais t'es au plus bas, on pourra pas te rejeter. Donc, mon envie, c'était de tout annuler. Ça, bah, j'ai annulé des trucs, j'ai annulé mes opéras Garnier.
C'est la solution.
C'est ça qui s'est passé.
Arrête tout, ouais. C'est bon.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ça vient de toi ?
Ouais, c'est moi qui ai annulé les opéras à cause de la dépression.
D'accord, c'est la souffrance de la dépression qui
ça m'a... Ça m'a... Ouais, en fait, ça a duré depuis quelques temps. Et là, j'ai eu des gros pics quelques jours avant. Et je suis juste avant de monter sur scène au Fémina à Bordeaux. Il y avait tout le public dans la salle et je me suis effondré dans le parking.
Parce que j'étais tu en train de fumer
une clope dans le parking et je me suis effondré. Et mon frère est venu puisque je pars en tournée avec mon frère. J'ai cette chance. Et il m'a dit qu'est-ce qu'il y a. Et je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus rien. Et je me suis effondré. Et c'était 3 jours avant l'opéra, donc on a annulé l'opéra Garnier. Et je suis tombé dans une grosse grippe et dans un gros truc. Et tout mon corps m'a lâché. Et après, je suis allé voir un psychiatre qui m'a dit que c'était une dépression mélancolique, qui est le plus fort type de dépression qui existe. C'est celui d'Emmanuel Carrère dans Yoga, qui est un truc qui te suit toute ta vie, qui revient tous les 5 à 8 ans. Et ça revient de plus en plus, de manière plus en plus dure, quoi. Moi, j'en ai eu une quand j'avais 18 ans, 18-19 ans. C'est ça qui m'a fait quitter la télévision. Et ça reviendra quand j'aurai 30 ans.
On se réjouit de la prochaine.
Ah, on se réjouit de la prochaine. Mais en fait, ce qui est dur, c'est que cette maladie est vraiment horrible parce qu'elle revient, mais elle comprend comment tu l'as soignée les premières fois. Donc, elle revient d'une manière encore plus sinueuse.
Wow, c'est une perverse narcissique toxique.
Ouais. Bah, Emmanuel Carrère, j'ai eu la chance de le... Je ne sais pas si vous avez lu Yoga, qui est vraiment spectaculaire, qui est un livre sur la dépression. Quand j'ai compris qu'on avait la même maladie, parce que j'ai relu Yoga, je ne sais pas pourquoi, juste après avoir eu mon diagnostic. Enfin, après avoir pu remanger, relire, redormir sainement, je me suis mis à lire. J'ai lu Yoga et dedans, il parle, il met son descriptif psychiatrique. Et je me suis dit, mais c'est le même, on a le même. Et donc, je lui ai fait un mail, je lui ai dit, entre mélancolique, est-ce qu'on peut se rencontrer ? Et je l'ai rencontré, on a discuté. Et du coup, il m'a expliqué un peu ses plusieurs crises dans sa vie. Et ça devient toujours de plus en plus dur, c'est ça qui est effrayant. Et lui, c'est arrivé jusqu'à ce qu'il en parle. Dans Yoga, il en parle. Il a fait 4 mois d'internement à Sainte-Anne et des chocs, des électrochocs, des shots de kétamine. Ça va très loin, quoi. Donc, je sais pas, on verra.
Parce que Neil Brennan aussi raconte.
Ouais. Ouais. Avec son petit bracelet qui lui envoie des charges pour lui rappeler de sourire.
Oh, waouh.
Ouais. Toutes les minutes, il a une petite décharge dans le poignet pour lui rappeler de sourire. Ouais, donc c'est une maladie bien bizarre. Et moi, c'est une maladie qui... Tu produis plus de kétamine, j'allais dire.
Sérotonine.
Ouais, tu produis plus de sérotonine, donc ton cerveau veut se détruire. Parce qu'apparemment, c'est comme ça que le corps humain fonctionne. Si tu produis plus de sérotonine, il n'y a plus... Ce qui est assez, d'ailleurs, réjouissant sur le fait qu'on n'est pas que des animaux. Parce que le cerveau veut un peu se pousser à la destruction si on produit plus de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. C'est assez marrant, en vrai. Comme...
C'est un peu l'huile entre les neurones. Donc
ouais.
Si c'est mal huilé, c'est pour donner une image, si c'est mal huilé, c'est forcément ça grippe. Et ça...
Mais du coup, c'est marrant parce que c'est quand même ce qui est responsable du bonheur. Donc il y a quand même quelque chose de. Mais c'est parce que. C'est pour ça que je parlais de fluidité tout à l'heure et que j'arrivais mal à m'exprimer. Parce que je pense que le bonheur vient de la fluidité. Et tu parlais de fluidifier tout ça. Ça vient de quand c'est fluide, quand t'es fluide avec le monde, avec les gens, quand ça glisse. Et donc, au bout d'un moment, ton cerveau veut se détruire et il t'envoie tes plus grandes peurs inconscientes et te les rend concrètes. Et il te dit, regarde cette fenêtre.
D'un alien.
Ouais.
On dirait un film d'horreur.
On dirait un épisode de Rick and Morty, quoi.
C'est super bien programmé, quoi.
On dirait un épisode de Rick and Morty, c'est très bizarre. Et après, ton cerveau te dit, tiens, regarde le 6e étage, t'es au 6e, la fenêtre s'ouvre et tu peux sauter. Ce sera plus simple que tes plus grandes peurs qui deviennent vivantes, non ? Et c'est hyper, hyper bizarre. Et moi, ma grosse peur, là, cette fois-ci, c'était le rejet. J'avais déjà eu ça à 18 ans, mais ça s'était calmé assez tôt, sur le rejet. Mais là, c'est le rejet, quoi.
Mais c'est le rejet de quoi ? Des autres ? Des autres en général ?
C'est ma phobie depuis petit, quoi.
Mais même de tes proches ? Parce que...
De mes proches, de tout le monde.
Mais est-ce que c'est paradoxal ? C'est-à-dire que là, à ce moment-là, ça arrive, à la fin d'une tournée, après une captation et tout, où cette peur du rejet, t'as dû la mettre, genre... fort en coulisses. Est-ce que tout à coup, elle genre, paf enfin, tu vois ce que je veux dire, tu l'as...
En fait, je me serais mis... J'aurais nié 2 burn-out. C'est
ce que... Je suis vraiment passée sur 2 enfants en voiture.
Ouais,
c'est rien.
Dodane avec détresse. Mais j'aurais fait 2 burn-out. En fait, il y a 2 gros éléments dans mon année qui ont été très bizarres. Une fois où j'ai fait beaucoup de malaise et une fois où j'ai eu d'autres problèmes. Et en fait, ça aurait... techniquement, c'était des burn-out. Mon corps me disait, arrête-toi.
Mais arrête parce que t'as trop de boulot ou qu'il y a une charge émotionnelle bizarre à ce
Les deux, en fait. Okay. Et moi, je continue à me rajouter du taf pour contrer l'appel du vide, en fait. Mm. Et au bout d'un moment, ça a fait comme une bouteille de champagne que t'as trop secouée.
Une fois que c'est diagnostiqué... C'est pas pour autant qu'on te dit, bah voilà, reviens vers la trentaine, ce sera dès que tu sens que ça commence, tu prends ça et ça et c'est bon. Il y a pas de traitement.
En fait, techniquement, t'es censé prendre un traitement à vie, mais
C'est des dragibus.
Mais c'est compliqué. Ouais.
Ça marche super bien.
Bah, ça rend.
Non, mais c'est particulier comme comme trajet en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la prévention tout le temps. Et il y a quelque chose de l'ordre de quand ça t'agresse, parce que ça arrive d'un seul coup, t'as des techniques pour te.
Donc le fait d'avoir été diagnostiqué peut te mettre dans un mode un peu vigilance, je suis au courant qu'à tout moment.
Exactement. Mais surtout, la force, c'est les proches autour de moi.
J'allais te le dire.
Ils le voient, quoi. Ils sentent quand. Parce que c'est marrant, mais moi, je le sentais pas du tout. Moi, quand ça commençait à aller mal, mon frère, il m'a dit t'es sûr que ça va parce que t'as. Et là, il y a une amie, il n'y a pas longtemps, cet été, qui m'a dit « C'est bizarre, j'ai l'impression que tu es une île et qu'on a coupé tous tes ponts. Ouais. » Et donc, je ne me rends pas compte. Moi, je continue à écouter les gens avec des grandes pupilles, tu vois. Mais en fait, il n'y a rien qui s'imprime, il n'y a rien. Et c'est les gens qui le voient. Donc, je pense qu'une des forces d'être diagnostiqué assez tôt, c'est que les gens autour de toi, du coup, savent.
Ils peuvent te prévenir.
Ouais, ils peuvent te dire « Là, je sens qu'il y a un truc chelou. »
Et donc, du coup, tu les crois ou tu dis « Mais non, pas du tout. »
Bah, ça dépend dans quelle phase je suis, mais bah, moi, ça m'a énervé, tu vois, quand on me l'a dit au début. J'ai dit, mais non, mais tout va bien, regarde, j'ai tous mes projets, je vais jouer à Garnier, tout va bien se passer. On a vendu les 6000 billets en 24 heures. Attends, je suis hyper heureux, mais c'est pas du tout ça le bonheur. Quel rapport.
Oh non.
J'ai une belle billetterie.
On nous y avait pas dit. Heureux. J'ai cru que t'allais dire, j'ai une belle billetterie. Genre, non. Bah, c'est vrai, aussi, mais à la fois, c'est aussi le bonheur, mais pas toujours.
Non, j'ai une belle billetterie, je suis content, mais c'est que c'était les liens que je faisais de manière débile à cette période, quoi. On me disait ça va, et je disais super, là, le spectacle.
Oui, c'est génial, c'est vrai.
En mode, c'est pas la question que j'ai posée, quoi. C'est très bizarre.
Il y a un truc que je vois dans ton livre, c'est beaucoup la référence au film. Est-ce que le cinéma est une éducation, à un moment donné? Parce que tu n'arrêtes pas de faire une référence à « c'est comme dans les films, dans les films, comme dans les films, comme dans un mauvais film, dans un mauvais film ». Et je sais que quand on fait du stand-up, on a souvent ça aussi, cette culture du cinéma, de toujours parler, de toujours référencer à une sorte d'idéal créé par le cinéma et de cette déception qu'on a par rapport à la réalité. Ça vous parle?
C'est marrant comme tu le poses.
Moi, c'est exactement ce que je me dis dans le livre. Dans le livre, j'en parle à plusieurs moments où ça va mal, en fait. Mmh. Quand ça va mal, je me dis, t'es dans un film, c'est une scène dramatique dans un film, c'est pas grave, il y aura la scène joyeuse à la fin. On est au souffle de la mort à la fin du deuxième acte, bientôt le troisième acte, tout va se réconcilier. Je me dis souvent ça. Donc moi, j'utilise plutôt ça dans le livre. Et c'est souvent dans les moments où ça va pas très bien, en fait. Je parle de... Ou avec des moments avec mon père, tu vois. Je parle de on se fait un câlin, comme dans les films ou comme dans la vie. Je crois que c'est comme
dans un mauvais film français.
Ouais, comme dans un mauvais film français. Ou autre, c'est les moments où ça va mal, en fait. C'est pour symboliser un peu les moments où je sors de moi et je me mets à me trouver ridicule et je me dis, c'est une scène de film. Mais c'est aussi une sortie de route, tu vois, de se dire, d'un seul coup, je sais pas si vous vous dites ça. Moi, je sais que ça m'est arrivé à des moments un peu bizarres de ma vie, mais je me dis, là, c'est pas moi, c'est un comédien.
Ah oui.
Quoi?
Là, c'est pas moi, c'est...
Non, là, c'est pas moi.
Oui, bien entendu. Attends,
et nous deux, genre...
Non, la dissociation du moment.
Ouais, genre, quand t'es en train de tuer un gosse, par exemple, t'es en train de tuer un gosse, fais « c'est pas moi, c'est
non, mais j'observe comme un auteur, je suis là, genre « oh, ça ferait un super truc si jamais, à un moment donné, il manque juste cet élément-là,
ouais, exactement,
à la fin pour faire un twist derrière. »
Je me dis, là, c'est pas moi, c'est un comédien qui joue une scène. C'est le moment où mon âme sort de moi.
Ouais.
Mais moi, le truc me dit « t'es un comédien, c'est un film, et du coup, joue bien la scène. » Et donc, je me mets à jouer la vie, mais je ne suis pas du tout dans moi.
Ah, moi, je l'ai le contraire, c'est ça m'est arrivé souvent en couple de trouver dans des disputes que la personne en face jouait mal. Et j'avais vraiment envie de faire genre, on arrête tout, parce que t'es nul, ça va pas du tout. C'est des gens qui sont là, genre, wow, tu sais, qui deviennent non, super clichés. Ouais, tu sais, qui savent pas s'énerver au truc. Et je te jure, parfois, j'ai des fous rires de genre, refaisons-la, parce que là, on est que dans des clichés, c'est très, très, c'est du déjà vu, t'es en surénergie, mais ça va pas avec ton corps. Enfin, c'est horrible. Mais j'ai pas le contraire, je crois. Non, j'ai pas le contraire. Mais toi, c'est le truc qui m'avait frappé la première fois que je t'avais vu sur scène. Mais d'ailleurs, je pense que j'avais vu des trucs captés d'abord et ensuite sur scène. À quel point t'arrivais à créer du cinéma tout seul. Enfin, que c'était vraiment ton langage au début sur scène et ça allait encore, je pense. Mais c'était frappant à quel point il y avait ce truc de genre toi tout seul et tu créais un monde en deux secondes. Il y avait un décor, des bruits, des machins, des trucs. Et je pensais pas que c'était un truc qui, du coup, t'arrivait dans la vie. De toi, tu réfléchis beaucoup la vie comme des scènes. Et du coup, parfois, le réel.
Je réfléchis même mes émotions. C'est-à-dire que des fois, je suis là, genre.
Qu'est-ce qu'il ferait, mon perso?
Parce que des fois, t'es triste, tu te regardes dans la glace pour voir si ça rend bien. Tu dis, ah, non, genre tu veux voir la scène, non, ça allait bien cette scène.
J'ai un réflexe d'enfant, c'est j'ai un vrai code d'enfance. Et imagine, j'ai une émotion triste qui arrive, je fais, cool, j'ai le droit d'être triste. Ça y est, j'ai le droit d'être triste. Alors là, ça y est, là, on peut pas me dire non. Alors là, et en fait, c'est comme si... et je dissocie complètement le moment, et c'est ma femme qui me dit, mais tiens, t'as le droit d'être en colère, là, parce que c'est horrible ce qui t'est arrivé là. Je fais, ah ouais, tu crois? Bon, cool. Dans ma tête, je me dis, cool, j'ai le droit d'être en colère. Cool.
Oh, wow.
En fait, je n'ai aucune notion d'éducation de mes émotions.
Ah, tu te sens autorisé. Tu
es content de te sentir autorisé.
Je n'ai pas le droit. Je suis éduqué à.
Contenir.
À, on ne dit pas.
Ouais, ouais.
tout va s'oublier, on ne dit pas, on va, tout va s'oublier. Et on met sous le tapis, et t'inquiète, ça va passer.
Ah, moi, je me dis pareil, des fois, je vis des trucs, et je me dis, là, je crois qu'il faudrait que tu sois triste. Et du coup, ça... Et c'est vraiment comme une scène de film. Je me dis, là, je pense qu'il faudrait... C'est l'ordre naturel des choses.
T'en parles dans le bouquin, d'ailleurs. Il y a un moment où tu dis, je pleure, mais c'est plus parce que
c'est
je sais
ma première
qu'il faut
rupture.
Que je pleure et que ça me ferait du bien.
Rupture,
donc, je vais un peu vider mon truc, mais je le fais pas. C'est pas
et
un
après,
réflexe.
Et après, j'écris, super, tout le monde y a cru à cette scène... Ouais, bah c'est ce que je me dis. Wow. Et je me suis vraiment dit ça sur le coup, parce que je me souviens très bien en pleurant avec les larmes qui tombent sur mon... Prendre des notes pour le livre. Comme un... Ça aussi, c'est un problème qu'on a tous.
Oui,
quand
alors ça, c'est
trucs,
très très grave.
J'ai déjà arrêté un rapport
arrêtez,
sexuel
on
prenant
a tous,
pour prendre
on a
des notes.
Moi,
donc,
ça va, les gars.
Ça, c'est très très grave.
Bah oui. Toi aussi.
Bien sûr, évidemment. Évidemment, bien sûr.
Et après, l'autre croit que t'écris un truc. Et en fait, t'es là, deux chats, quand ils discutent.
Ouais, c'est terrible.
Mais donc, ça, c'est un autre problème. Mais... De prendre des notes tout le temps dans la vie. Mais j'étais en train de vivre une rupture, c'était ma première rupture, et je suis allé m'enfermer dans les toilettes pour pleurer, et je me suis dit, là, c'est super cette scène où tu veux pas pleurer devant les autres et tout. Et je suis sorti des toilettes avec vraiment des poches sous les yeux et les yeux humides, et un serveur m'a croisé, et je me suis dit, il y a cru à cette scène, ça se voit qu'il y a cru, là, il doit se dire que je vis un truc de ouf. Et j'avais cette voix dans ma tête qui me disait, là, t'es en train de vivre un
mais
truc de ouf.
Mais je pense que c'est une protection.
Et je prenais des notes du fait que je pensais. Et je prenais des notes du fait que je prenais des notes et à quel point c'était ridicule comme sauvegarde de prendre des notes. C'était n'importe quoi.
Je pense que c'est une protection.
Ça n'avait aucun sens.
C'est
oui.
C'est ton cerveau qui dit non.
Ce n'est pas toi.
Pas triste.
Ouais.
C'est pas toi.
Ouais.
Moi, je suis derrière mon comptoir et tout va bien.
Ouais.
Parce qu'on n'est pas habitué à ce que ça n'aille pas.
Et on revient au truc de la vulnérabilité, quoi. Si tu poses les armes avant, si tu dis voilà, je vais pas bien, c'est la même chose que. C'est marrant parce que je le fais dans la vraie vie, mais je m'en suis rendu compte en écoutant ce podcast de trucs de thérapie de couple. Il y a plein d'endroits où tu peux pas disputer. C'est très difficile que le ton monte si on est les deux allongés, par exemple. Parce qu'à un moment donné, t'as envie de t'enlever, tu vois, le truc. Donc si tu restes les deux allongés, a priori, tu peux pas te hurler dessus. Si tu te touches, tu peux pas te hurler dessus. Et si tu te mets à le faire en chuchotant aussi, généralement, tu te mets à rigoler au bout d'un moment. C'est si t'as une méga dispute, t'as genre, mais le problème avec toi, c'est qu'à un moment donné, j'ai envie de te faire confiance. Et en fait, c'est plein de techniques comme ça où tu te rends compte qu'effectivement, il y a un autre truc qui va finir par sortir assez vite qui est genre, en ce moment, je suis un peu stressée pour autre chose ou truc, et tu bypasses genre 8 heures de malentendus, disputes de merde. Enfin, oui,
exactement, et puis t'évites une rupture de confiance. Et de toute façon, ça crée des ruptures de confiance. Ça met des coups de canif à la confiance, ça.
Mais
le côté, imprévisible, faut faire attention à ça. Faut vraiment. Et il y a autre chose que je me dis, c'est quand quelqu'un m'énerve profondément et me crée de la colère, j'imagine que c'est Michael Scott.
Ah bon ?
Et ça me fait rien.
Ah ouais ?
Il t'attendrait tout à coup ?
Je trouve que c'est une dinguerie. Parce que en fait, je me dis, mais non, mais c'est une dinguerie. C'est vraiment, la personne a dit une dinguerie.
Ah oui, d'accord. Okay.
Donc, c'est Michael Scott. Et je vois Michael Scott faire « Ok, yeah
!» Il était fou, il était raciste, mais il n'a pas fait exprès.
Ouais, voilà. Genre, voilà elle a été tellement imprudente, cette personne. Et du coup, ça, c'est parce que c'est Michael Scott. C'est vraiment de la bêtise, mais on ne lui en veut pas. Et du coup, ça crée un rire là où ça devrait créer une colère. Mais c'est subterfuge.
J'ai fait un rêve très paradoxal comme ça récemment où Trump était hyper sympa dans la vie. Et où il était là, genre...
Bah, il doit être très sympa.
Oui,
dans la vraie
je fais ce jeu, mais évidemment, je suis juste conscient de c'est ce que les gens veulent, mais je leur donne... Et il avait presque un truc d'entertainer, genre je sais que je l'ai diverti, comme ça. Et il était si subtil et drôle et hyper chaleureux et genre assez élégant et tout dans la vie. J'étais là, genre... Et vraiment, je me suis réveillée, genre, bah, je suis désolée, je crois que Donald Trump est vachement sympa, quoi.
Je pense que c'est vraiment ton inconscient qu'on pouvait plus de Donald Trump ce jour-là. Il a dû faire encore une dinguerie et il a dit non, mais là, on va être obligé de lui faire ressentir une émotion que Donald Trump, en fait, c'est pas possible, c'est un rôle.
Oui, c'est ça, c'est une AI.
C'est le meilleur prank, en fait, c'est un personnage de François Damiens depuis le début. C'est Sacha Baron Cohen, un jour, il l'enlève et il fait alors, celle-là, vous l'aviez pas vu venir. Hein.
Moi,
j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du texte de Marina, on n'en a pas beaucoup parlé.
Oui, d'accord.
Parce que quand même, ça baise.
Des nouvelles érotiques, c'est rigolo à faire. Est-ce que tu as lu les autres aussi un peu ?
J'ai pas lu les autres, mais j'avais entendu, je crois que j'avais peut-être écouté, est-ce que c'est Steamy, c'est ça au départ ?
Ouais, exactement.
Ça existe en podcast.
C'est un podcast. Alors, c'est un podcast de Louis Média. On adore Louis Média, ils font des trucs super. Bien le sûr, podcast s'appelle Steamy, c'est super. Sauf qu'il est sur une app qui s'appelle Storytel, qui est super, mais c'est une app qu'il faut prendre pour écouter le podcast. Donc, je pense que ça a peut-être été moins écouté.
C'est un petit frein supplémentaire.
Voilà. Et donc, il y a.
Et toi, tu as lu ta propre nouvelle pour Steamy, c'est ça ?
Bah oui, c'est ça. Et je l'ai enregistré dans une cabine d'enregistrement. J'étais à New York à l'époque et je l'ai enregistré à New York avec un. Je voyais le mec en régie. Qui comprenait pas ce que je disais, mais qui comprenait que je faisais des bruits bizarres. Et donc, un peu, au bout d'un moment, il me regardait plus vraiment et tout. Et moi, j'étais là en train de m'ambiancer. Et en fait, au début, je l'enregistrais avec les filles de Louis Média, avec la tablette qui me regardaient. Et à un moment donné, je crois que je dis genre, ça vous dit, j'en fais une sans que vous me regardiez. Et il y a vraiment eu un truc qui s'est lâché. Parce qu'en fait, si tu queen un peu, enfin, tu vois, c'est hyper bizarre de le faire avec un public, mais en fait, quand tu le fais plus. Bref. C'est une série de podcasts. À chaque fois, c'est des nouvelles érotiques. À chaque fois, par une autrice. Voilà. C'est que des meufs qui écrivent. Et généralement, c'est soit l'autrice qui le lit, soit une comédienne. Et puis, ils ont sélectionné quelques-uns de la première saison. Et ils en ont fait un recueil de nouvelles. Puis, je pense qu'ils vont refaire avec la saison 2. Et le mien, il est assez rigolo. Enfin, ma nouvelle, elle est pas hilarante, mais je veux dire, ça se prend pas trop au sérieux. Et je crois que c'est le ton de tout le recueil. C'est ça qui est assez marrant. C'est que beaucoup de meufs passent un peu. Mais parce qu'en fait, je crois que c'est ce dont on parlait sur la pénétration. Hein. En fait, si t'es une meuf qui met son érotisme et son regard dans le monde en disant « je suis pas que une image, c'est pas moi qui suis regardée », je pense que l'humour, ça participe de ça aussi. C'est-à-dire, si je drague et si je suis active et si j'ai du désir, en fait, être un peu gaulerie, ça va avec ce truc de... qu'on associe à la virilité d'habitude. Et vraiment, je trouve tout le recueil hyper cool. C'est des points de vue très différents, c'est des histoires assez différentes. Je sais pas, c'est assez sexy, quoi. Je trouve ça assez hot, mais en même temps drôle.
Jamais lu une nouvelle érotique.
Bah écoute, commence par celle de Maria.
Je l'ai, le recueil. Mais
commence par celle-là, comme ça tu seras déçu de...
It's okay.
Tu seras déçu toute ta vie par toutes les autres nouvelles érotiques.
Ah, t'es sympa.
Parce que c'est marrant, réel, il y a un vrai truc qui marche vraiment super bien. Et d'ailleurs, tu commences en parlant, je sais pas si ça s'appelle les femmes marrantes, ça, ou les femmes drôles.
Les femmes marrantes, comme les femmes savantes. Tu vois, c'est une référence Molière. Si tu nous écoutes, Jean-Baptiste.
Et du coup, je trouve la question intéressante. Toi, quelqu'un de plus marrant que toi, ça te bloque ou pas?
Non,
en séduction,
non.
Ok.
Mais j'ai jamais rencontré.
Boom.
Excuse-moi. tu vois pas quand on t'envoie des signes.
Non, okay, je crois pas. Je crois pas que ça me bloque. Ouais. Je sais pas, je crois
ça
pas.
Ça te met pas en danger, tu dis pas attends merde, c'est quand même un atout majeur. Non, parce que dernièrement
je mets pas l'humour en avant dans mes relations.
Ah ok. En séduction.
Mais là je suis dans une longue relation depuis quelques temps, mais.
Ouais.
Mais. Ça veut rien dire. Dans une longue relation depuis quelques temps, ça s'annule.
Après, t'es pas complètement francophone à la base.
Depuis deux jours. Dans une longue relation depuis deux jours, là.
Mais et l'humour ne passe plus en priorité. Enfin, okay. J'ai plus le besoin, cette impression que si je fais pas de blagues, ça va se terminer. Parce qu'avant, j'avais ça. Je me disais, il faut que je sois celui qui fait les blagues.
Donc allez, à cette époque-là, par contre, ça aurait été plus compliqué de...
Ah ouais, je pense.
Trouver quelqu'un où t'as l'impression que la personne t'éteint, quoi.
Ouais.
Fait merde, mais la personne m'éteint là. Dans...
Mais moi, il y a un truc, mais j'avoue, mais peut-être que t'as raison, parce qu'il y a un truc où je suis jaloux. Moi, mon mec fait moins de blagues, mais est beaucoup plus marrant sur des trucs de. Il dit le bon mot au bon moment.
C'est le super pouvoir des timides.
Ça m'en ouf.
Le père de mon meilleur pote, il dit jamais ses émotions toute sa vie.
Ouais.
Et à son mariage, il a vraiment juste pris la parole.
Elton John.
Et alors. Non, justement, il a fait un truc genre. Et on voulait te dire au mec de mon pote. Nous t'aimons beaucoup et bienvenue dans la famille. Et tout le monde était genre, oh mon Dieu.
Il a enfin ouvert.
Parce qu'en gros, il n'a pas parlé ces 40 dernières années. Bah et donc, bon, c'est foutu.
Mais moi, j'en fais des, tu sais, je construis des trucs pour faire des blagues. Je vais chercher des références, des trucs, je construis, je mets du mortier, je construis une baraque. Lui, il arrive, il fait bidoup. Et je suis là, putain.
C'était ça.
Quel génie.
Là, par exemple, en ce moment, il fait un truc qui me rend ouf. Des fois, quand je comprends pas un truc, il me dit, ça va être nul, mais il me dit, chababrou. Et ça me rend ouf à quel point ça me plie à chaque fois.
Bon, t'es très amoureux aussi. Hein.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais, c'est pas si marrant que ça.
Non, mais si, c'est quoi couper en moins bien.
Hein non, parce qu'il me le dit, avec un regard dans les yeux, genre espèce de con, va, qu'est-ce que tu viens de dire.
C'est super.
Et ça me rend fou de drôlerie. Ah, peut-être que tu es très amoureux.
Non, c'est pas ça. Non, mais je comprends que ça pourrait me faire vraiment rire, c'est qu'il y a un truc très pur. C'est pas une méga vanne.
Exactement.
C'est un truc débilos, genre on est des enfants, on fait les neuneux. C'est trop bien.
Ça m'en fout.
Dans ta nouvelle. Tu constates le gars pas du tout déconstruit.
Mm-hmm.
Tu constates le mec qui a des blocages dans tous les sens, justement, qui veut pénétrer, qui doit être marrant et tout. Et tu ne fais que lui pardonner. Tu ne fais que lui dire, c'est pas grave.
Parce qu'il est très beau. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a un truc de conquête aussi. Je crois que je me dis, vu que j'arrive pas à le faire marrer et que j'arrive pas à le prendre sous ma coupe, il y a un truc genre, je vais le montrer, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est ça un peu la motivation, quoi. Il est très faillible, mais c'est un peu rigolo. En fait, il devient un peu attendrissant parce qu'il est un peu vulnérable au bout d'un moment. On ne va pas se
parler. Ouais, il a l'air un peu teubé, tu sais, un peu. Il est très beau et un peu teubé. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, tu dis, mais en fait, il est juste pas au courant. Et voilà, bon.
C'est Ken.
Et mais tu lui pardonnes.
Sans révéler le retournement de situation. Est-ce que si le retournement avait été inverse, peut-être qu'en fait, il n'y aurait rien eu du tout parce que ce serait devenu. Il serait passé du côté gros lourd de la force.
Ah, si c'était une meuf.
Si, non, si. Je sais pas si tu veux. On s'en fout, c'est une nouvelle ou je spoil ta nouvelle.
Vas-y.
Si c'est la France qui gagne.
Si c'est la France qui gagne.
Est-ce qu'il ne serait pas devenu une espèce de vieux chauvin?
Ah, j'ai pas du tout envie de le canner.
Ouais, c'est sa vulnérabilité de loser, oui, voilà, de mon équipe a perdu, qui tout d'un coup
te
le rend.
C'est surtout quand c'est la France, quoi. Vous, le coq et tout. C'est sur la finale de l'an, Suisse-France, là.
Okay.
Moi, j'étais dans un bar. En fait, je jouais, je crois, à la Cigale. Et j'ai vu la deuxième mi-temps dans un bar juste à côté. Et on était deux Suisses sur, bah, je sais pas, 130 Français, quoi. Et c'était hyper bizarre parce qu'au début, ah, il y avait Fanny Ray aussi, il y avait une Belge. Et de temps en temps, on se levait genre, ouais! Et en fait, comme les regards étaient de pire en pire, à la fin, on disait genre, ouh! On n'osait pas du tout célébrer. Oui, oui, c'est super qu'il y ait un truc de, un peu de loose, un peu pété. Bah, je pense que oui, c'est trop compliqué si les mecs sont et mecs, et virils, et hétéros, et vainqueurs. C'est pas très bon. Enfin, bah, tu vois, Dan Bizarian, c'est difficile de l'érotiser, tu vois.
Ah, c'est bien d'avoir une limite.
Ouais.
En tout cas, bravo parce que c'est extrêmement bien écrit.
Merci
et ça mélange vraiment de bah, tout ce qu'on aime, quoi. De la drôlerie, de la sincérité, de la vérité et surtout des images.
Mais... Ah bah cool.
Des images. Ouais, mais, et toute la partie érotique. C'est-à-dire que là, quand tu dis j'ai écrit une nouvelle érotique, c'est tellement
drôle.
Ah, merde, j'ai raté ma nouvelle érotique.
C'est excitant.
La partie érotique
c'est bien écrit,
est hyper bien gérée, justement.
Merci
avec justement cette bascule où justement, effectivement, c'est très anti-porno de base hétéro pour gars parce qu'il y a quand même une montée. Ou même moi, j'étais là, bon, ils vont ken ou pas? Donc en vrai, j'avoue, quand je lance un porno, je n'ai pas trop ce suspense.
Ouais.
Je suis pas là, ils vont ken ou...
Mais vous n'avez pas grandi avec le... Justement, qui n'était pas du porno, c'était l'érotique genre RTL 9 et compagnie.
Ouais, mais c'était un peu éclaté.
Hollywood Night. Je trouve qu'il y avait un truc, en tout cas de montée, qui était très cool toujours. C'est qu'elle va lui montrer son huc, cette agente immobilière, tu vois. Et il y avait toujours des trucs entre des rideaux. Et je trouve que ça construisait un truc sur le désir qui était hyper intéressant, quoi. Le porno, c'est marrant, mais c'est pour un autre truc, quoi. C'est pas...
C'est pas que je suis timide ou quoi que ce soit, c'est juste que pour moi c'est un twist qu'ils couchent ensemble parce qu'à mon avis ils vont pas coucher ensemble.
Non, mais pour moi, j'ai pas dit qu'ils couchent ou pas ensemble, c'est pour ça que je me demandais ce qu'on peut spoiler. Je veux dire la partie érotique parce que depuis tout à l'heure tu dis que qu'est-ce que c'est drôle,
non, mais
que c'est marrant.
Non, mais c'est imagé, surtout il y a des images et c'est vraiment bien écrit, quoi.
Est-ce
que vous voulez faire un petit jeu? Ça s'appelle Qui êtes-vous?
Dis donc.
Bah alors?
Je donne le nom de la personne et il va falloir en posant des questions, qu'est-ce que cette personne a de particulier? Si je dis par exemple, qui est Robert Wadlow? Et là, vous me posez des questions.
Et bah, déjà, la première question, c'est comment ça s'écrit Wadlow?
Wadlow, W-A-D-L-O-W.
Wadlow. Est-ce qu'il est auteur? Est-ce qu'il est auteur?
Il n'est pas auteur, non.
On est
il
sur est l'Amérique
du Nord? Il est né en 1918.
Sur l'Amérique du Nord?
Illinois.
Illinois.
Il a inventé quelque chose?
Non, il n'a pas inventé quelque chose.
Il était dans la politique?
Non.
Il lui est arrivé
il était dans l'agroalimentaire?
Non.
Il lui est arrivé un drame?
Bah, malheureusement, il est mort très jeune.
Non, mais c'est lié à ce qu'on cherche,
ouais.
C'est sa mort qui est spectaculaire?
À mon avis, il était très spectaculaire.
Oh, wow.
Il est connu pour sa mort?
Non.
Ah.
On ne cherche pas pour sa mort?
Non.
Mais il est mort jeune?
Il est mort jeune.
Il avait une maladie?
Il avait une maladie, ouais.
C'est sa maladie qui le rend...
Ouais, qui le rend... C'est pour ça qu'on a dit Robert Wadlow dans un bon moment. C'est sa maladie.
Oh.
Est-ce qu'il était alcoolique et tout le monde lui disait « Wadlow »
Il nous a donné un...
Putain, c'est exactement ça. On passe au prochain article.
Il nous a donné une cure? Grâce à sa maladie?
Non, non, non.
Il avait une maladie
orpheline particulière. Ah, c'est un patient zéro, c'est
pas un patient zéro.
Okay.
Il avait une maladie particulièrement bizarroïde?
Ça l'a rendu bizarre. Enfin, ça l'a rendu...
C'est Elephant Man.
Non. C'est comment il s'appelle d'ailleurs, le mec d'Elephant Man?
David Lynch.
Donc, il avait une apparence spéciale. Ouais. Parce qu'il était très grand.
Exactement.
Voilà.
2m34.
C'est l'homme le plus grand du monde. À 5 ans, il faisait 1m63.
C'est mais la taille
c'est
de Marina Rollman.
Ou...
Il faisait une Marina Rollman à 5 ans. C'est vraiment bizarre.
C'est-à-dire qu'il avait et ta taille et ta voix.
C'est l'homme le plus grand du monde. Il est mort. Il mesurait 2m72.
Jesus. Waouh, 2m72.
Ouais.
Waouh,
triche. Au basket, c'était vraiment triché là.
Ah ouais.
Il
met 52 cm au mec super là, qu'ils ont pris en NBA, le français immense.
Quelle flemme.
Le first pick
ouais,
là.
Ouais. Oh, hypertrophie de son
hypophyse.
Oh la flemme de faire
ça. Produisait un nombre anormalement élevé d'hormones de croissance. Qui est Valentina Vassilieva?
Elle a fait un truc dans l'eau, Valentina.
Elle est née en Russie, donc on est en 1707.
Ah, c'est pas dans l'eau.
1707, Valentina Vassilieva.
Est-ce que c'est une nonne?
C'est pas une nonne, au compte bien au contraire.
Oh, c'est une grosse pute.
Ah, c'est ça l'inverse d'une nonne? J'aurais dit une athée, mais bon.
Oui,
non,
bah,
non, une énorme pareil. Traînée, une grande catin, un truc marrant,
non,
célébrant.
Non.
Catin. Quelle chance d'être une femme et de pouvoir utiliser tous ces mots.
Catin, tu peux, t'as le droit.
J'ai le droit de dire catin. Catin. Ouais.
Non, mais même une grande pute dans le sens positif, moi, c'était pas une grosse pute, c'était genre.
Non, c'était pas une prostituée.
Ah, ok.
Ah là là. Ça m'énerve ces jeux parce que j'ai
une sorcière, c'est la première sorcière.
Non.
Famille royale?
Non.
La deuxième sorcière.
C'est la deuxième sorcière.
C'est la deuxième. On est connectés. Vous êtes des gamins.
La troisième.
Héroïne populaire.
Non, mais elle est connue pour quelque
elle
chose.
Chasse, wow. Elle chasse
un record. L'ours. Un record.
Elle a inventé quelque chose. Ah non, elle a
fait le plus d'enfants.
Putain.
Ouais, genre.
Bah, putain, t'as dit que c'était pas
ça. Ce serait marrant que ce soit la mère exactement du mec le plus grand ça du monde.
Elle a eu combien d'enfants?
À votre avis, combien d'enfants elle a eu?
37.
Plus.
Oi, quoi? Aïe, aïe, 52.
Plus de 37.
Elle a eu 69 enfants.
Bah, c'est sûr que c'est une grande pute, du coup.
Elle a accouché 27 fois. Dont 16 fois des jumeaux.
Ma Valentina, comment on fait?
Elle a fait plus d'enfants que t'as couché.
Attends, on dirait une énigme. 62, elle a accouché 27 fois plus 16 fois des jumeaux. Et ça fait 69.
POV, tu dois. Bah ouais. Tu dois.
16 et 16, 32, 32 et...
27, 69.
Ah non, 59 alors. 60. 27 ou 37
bah attends, après, elle a eu des triplés.
Ah.
Elle a eu 7 fois des triplés et 4 fois des quadruplés.
Bah attends, redis-moi.
Ah, il adore. Ah, ça y est, c'est la
elle
deuxième partie.
Elle accouche 27 fois, en gros.
Bah non, 27, c'est beaucoup.
Elle a accouché 27 fois.
Ah, elle a accouché en tout 27 fois. Et dans ces 27, il y a des triplés, des machins.
Jumeaux, des triplés, des 4 fois, des quadruplés.
Mais 27 fois, ça fait 27 grossesses. Ça veut dire qu'il y a quand même...
Pendant 27 ans, elle a fait...
Elle a passé 18 ans de sa vie à porter des enfants.
Ah, les a enchaînés, elle a fait que retour de couche, retour de couche, retour de couche.
Son mari...
Une mitraillette.
Parce qu'il faut parler un peu de son mari. Il faut parler un peu de son mari, quand même. Non, mais son mari, Féodore, s'est remarié avec une autre femme et lui a fait 18 enfants. Il est père de 87 enfants, le gars.
Mais hyper dommage qu'on n'ait pas de photos à l'époque parce que j'ai quand même un peu envie de voir la gueule de Valentina après sans garde. Et tu sais à quel âge elle meurt?
Non, je sais pas à quelle heure.
Ça fait beaucoup accoucher 27 fois.
Mais tu les aimes plus.
Je pense au bout 69, de la 15e, tu sais, tu t'es
fait
une plie, je pense.
Est-ce que vous voulez en faire un dernier,
s'il te plaît?
Bien sûr.
Qui est Ruben Ncemo?
Ruben Ncemo.
Alors, on est sur le continent africain?
Américain.
Très bien. On est en Amérique du Nord ?
En Amérique du Nord.
Ok. On est au XXe siècle ?
On est au... Ouais, 2016. Il se passe un truc en 2016.
Ruben, c'est mort. Ah.
Non, on arrive dans le...
Ouais, on est plus
dans
en, l'époque, en 1612.
Et plus justifiable. En 1700, à l'époque,
avec
faisait,
des mythes et des légendes. Ouais, ouais.
En 2016.
39 000 enfants, la meuf, là.
Ruben, il a d'âge moyen en 2016.
Il est plutôt jeune.
Il est plutôt jeune.
Il bat un record, lui aussi ?
C'est pas le mec qui est mort parce qu'il s'est branlé trop de fois, là, ou je sais pas quoi ?
C'est pas le mec qui s'est branlé trop de fois.
Commence à te connaître. On ne cherche plus vraiment à poser des questions. Juste, qu'est-ce qu'aurait choisi Kian?
C'est Greg Romano avec qui on a écrit cette petit jeu.
Il est connu pour une raison joyeuse et positive ou pas trop?
Non. Il lui est arrivé un truc,
horrible.
Malheureusement. Non, pas horrible. Il lui est arrivé un truc.
Un accident?
Un accident.
De train, d'avion?
Un accident de sport.
Il fait du saut en hauteur, il s'est pris la canne dans le... Non.
Saut à la perche?
Non, pas la canne. Okay. La perche?
La perche.
Le saut à la canne, le fameux saut à la canne.
Le saut en hauteur à canne.
le saut à la perche dans la cuisse.
Alors, est-ce qu'il est en athlétisme?
Non, c'est plus un...
Il dans une piscine?
Concussion, violent, concussion, le football
MMA.
Américain.
Football américain, voilà. Il s'est pris une concussion, exactement.
Et après, il parlait allemand ou chinois.
C'est exactement ça.
C'est pas vrai.
Je te jure, c'est ça.
Ah, c'est quoi? Il
est tombé dans le coma, il s'est réveillé, il parlait plus anglais, il parlait espagnol.
Génial, ça je les adore. Ça, je ne comprends pas comment ils font. Moi, celle que j'ai préférée, c'est une anglaise qui s'est réveillée toujours en anglais, mais avec un accent chinois. Elle est blanche. C'était si fou.
Wow. Michel Leb, elle s'appelle.
Mais oui, le truc raciste, enfin, tout est problématique.
Mais il y a un épisode de Grey's Anatomy où la personne, elle se réveille et elle chante.
Elle ne parle qu'en chantant, genre.
Il y avait quelques notions avant l'accident. Cette pathologie existe. Elle s'appelle le syndrome de l'accent étranger, qui peut arriver suite à un choc ou une tête ou une attaque.
Ah, donc il a un accent.
Ouais.
Un accent espagnol.
Il est devenu bilingue en espagnol. Ah.
Mais il est redevenu.
L'apprentissage d'une langue se fait d'une partie bien précise du cerveau. Lorsque cette zone est abîmée, c'est une autre zone utilisée pour les langues étrangères qui prend le relais. Petit à petit, Ruben a perdu son accent espagnol et a recommencé à parler anglais.
Génial.
On aurait dit que c'était les trucs à la radio, là. Comment t'as parlé?
La météo.
Très bien.
Avec Marina Rollman, la météo décalée.
Avec Corinne désormais.
Et on passe tout de suite après l'horoscope décalé de Pana.
Oui, si vous êtes sagittaire, n'écoutez pas.
Est-ce que vous avez le souvenir d'un prof qui vous a changé votre vie quand vous étiez à l'école, au lycée, au collège?
Mais j'en avais un, mais en fait, c'était au collège. Et après, au lycée, on m'a dit qu'il sortait avec une meuf du lycée. Et il avait genre 55 ans. Donc, tu vois, je l'ai trouvé très, très cool quand j'avais 14 ans. Et 2-3 ans plus tard, on m'a dit « Ouais, bah, il est en couple avec Machine, là, elle a quitté sa femme, un truc. » Et donc, je me suis dit « Ah, est-ce que mentor ?» Ou est-ce que... Est-ce que semi-pédo ? Mais il était super, ouais. Lui, il m'a vraiment donné un truc de goût de la littérature. C'est vraiment hyper cliché. Je l'avais déjà, mais il m'a encouragé là-dessus. Et il m'a dit genre « Tu peux écrire, ça va être ton... » Enfin,
Lolita.
Ça peut être ton métier. Ouais, voilà, exactement. Non, vraiment, je pense qu'il m'a dit, genre, c'est possible, quoi. Tu peux... Et c'est plus un truc auquel j'ai pensé. Ce n'est pas enchaîné. C'est pas qu'à 14 ans, je me dis, je vais écrire. Mais quand je relis le truc après, je me dis, ah, ça, c'est un gars qui m'a dit assez tôt, genre, il y a un truc, tu vas poursuivre. Mais j'avais une prof de primaire, ça, c'était la mère. Ça, elle était super. Madame Ildirim, je peux la citer puisqu'elle n'est pas pédophile. Elle était vraiment géniale. Ouais, ouais, elle ne s'est pas fait choper. Et bravo à vous, Madame Ildirim. Elle était vraiment chambée. Et c'est grâce à elle que je m'attache en voiture. Tu sais, t'as ton truc, toi, dans le spectacle, de... c'est la portière avec les cyclistes.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Et moi, j'ai les trucs avec la ceinture. C'est que. On a le temps pour une anecdote un peu longue, un peu chiante, mais un peu marrant.
On a tout ce qu'il faut.
Donc, cette prof, géniale, elle se bouge le cul quand on est en primaire pour que. Une semaine, quand on a genre 10-11 ans, on soit hors les murs de l'école et en fait, on soit sponsorisé par un journal, un quotidien en Suisse. Et qu'en fait, on passe une semaine au Musée d'art contemporain à Genève et qu'on édite un supplément au journal pour le week-end. Et donc, on passe une semaine, toute notre classe, à genre chacun va faire des interviews dans un coin, on va faire des analyses d'œuvres. Enfin, c'est oufissime. Génial. On passe une semaine, genre génialissime. Et le vendredi à 15h30, genre 20 minutes avant qu'on parte du musée, il dit genre, alors que ça fait une semaine qu'on se tient à carreau et tout, alors qu'on est super excité, elle nous dit genre, ça y est, vous faites ce que vous voulez dans le musée, vous avez 20 minutes, faites ce que vous voulez. Évidemment, on devient fou. À l'époque, moi, je fais de la danse classique. Je trouve une salle où il y a une pièce qui est constituée, l'œuvre, c'est plein de cubes avec des arêtes vraiment vives, peut-être grands comme ça, comme des tabourets, disposés dans toute la pièce, en métal. Et à l'époque, je fais de la danse classique et je veux faire un entrechat, c'est-à-dire, tu sais, tu cours, tu fais un grand écart en l'air et tu ratterris. Et je ratterris, je me cogne un peu contre un de ces cubes. Je me dis, c'est pas grave, je commence à soulever mon pantalon et vraiment des rivières de. Enfin, rien de bas. Je soulève vraiment au genou et il y a genre, enfin, du sagex avec du sang dedans, quoi. Et donc, elle m'emmène à l'hôpital et sur le chemin de l'hôpital, très calmement. Et vraiment, elle était genre, tu sais, ça fait chier, tu les as tenus pendant une semaine, évidemment, un quart d'heure avant ce truc. Et sur le chemin de l'hôpital, je m'attache pas tout de suite. Et elle me dit, tu veux pas t'attacher? Je fais genre, non, c'est bon, mes parents, des fois, ils me laissent pas m'attacher. Fais, ok, d'accord. Elle me dit, tu vois les cicatrices que j'ai là? Et très calmement, aux urgences, elle me raconte qu'elle a eu un accident quand elle était petite avec sa mère, à genre 30 à l'heure. C'est juste qu'elles étaient sur une petite route, il y avait une voiture mal garée, elles ont juste bumpé un peu et elle a genre traversé le pare-brise. Elle m'a dit, genre, donc tu vois, tout ça, j'avais genre des bouts de verre qui ressortaient genre X années après. Et depuis, je m'attache en voiture. Merci, Madame Ildirim. Voilà, super.
Madame Ildirim.
Y-I-L-D-I-R-I-M.
Eh ben, on l'embrasse très fort.
Ouais. Moi, j'ai une prof aussi au collège, Madame Delbos, je peux la citer, qui me faisait des corrections sur mes poèmes et mes textes. J'allais la voir pendant la récré, j'écrivais des textes, des petits poèmes, et elle m'aidait. Et elle me conseillait des livres. On avait des vraies discussions sur la littérature. Et je l'ai remerciée dans le livre.
Mais c'est ça, ils encourageaient à mort. Quoi. Moi, je me rappelle, je faisais des exposés sur des livres, elle était hyper. Tu lui as parlé depuis, toi?
Ouais,
moi,
ouais,
je
ne
l'ai pas parlé
depuis
20 ans. Genre.
Elle m'a fait une analyse de mon livre.
Mais non, tu l'as envoyé.
Ouais.
Ah, génial. Je vais envoyer des trucs à ma.
Et combien?
Ah, je n'avais pas donné de notes, mais c'était une analyse.
Pas la moyenne.
Une analyse comme on faisait au collège, quoi. C'était ouf.
Mal dit, elle a mis.
Vu.
Peut mieux faire.
Est-ce que vous avez une recommandation culturelle à faire? Quelque chose que vous avez vu récemment? Un artiste que vous avez entendu?
Yeba Smith. Ouais.
Yeba Smith, que tu recommandes?
Qu'est-ce que c'est?
Que je recommande.
C'est encore un enfant de Will Smith qui cartonne?
Non, c'est de la chanson. C'est magnifique. Je sais pas, vous aurez évidemment pas les droits.
Marina, t'as quelqu'un à recommander?
Je suis sûre que j'aurais des trucs plus intelligents là et un peu plus perchés. Mais le premier truc qui me vient, c'est un groupe qui s'appelle Jungle. C'est des Anglais et qui font des trucs un peu... funk, disco, très chaud, très dansant. Ils sont en concert au 104 fin octobre. Et c'est vraiment c'est très, je sais pas, joyeux et sexy. Et c'est super.
Ça donne envie de Ken.
Voilà,
Jungle.
C'est ça. That's it.
Nabus, tu veux recommander quelqu'un?
Je sais pas, aller une série. Qu'est-ce que j'ai regardé qui avait l'air bien?
Ouais. Voilà. T'as recommandé le truc de psy?
Shrinking.
Le psy qui se fait enlever. Ah, Shrinking, on m'a dit que c'était incroyable.
What's Shrinking?
Le psy qui se fait enlever?
Ouais, qui se fait enlever. Le mec qui lui dit, je suis un tueur en série, aidez-moi. C'est toi qui l'as recommandé, j'ai regardé parce que tu l'as recommandé.
Ah, mais je l'ai peut-être déjà. Oui, The Patient.
Ouais.
The Patient, je sais pas comment dire.
Je te disais ça, je te recommande une recommandation, on sait jamais.
Tu te rappelles de mes recommandations?
Mais non, mais parce que tu l'as partagé sur Instagram,
super, hein.
Je suis allé checker. Non, j'ai pas kiffé.
Ah ouais?
Je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça, genre. C'est pas décevant.
Ah merde, bon, bah alors je le recommande pas.
Mais?
Moi je le recommande.
Ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut juste dire que j'ai pas aimé moi.
Voilà. Donc si vous préférez moi, peut-être que vous préférerez The Patient. Si vous préférez Pana, peut-être que vous aimerez pas.
Shrinking en tout cas, c'est pas mal.
C'est pas ça fonctionne comme ça les gars.
Attends, mais tout le monde. Attends, mais ça c'est une série?
Ouais, c'est une série sur Apple TV, sur Apple Plus.
C'est avec Harrison Ford, c'est ça?
Ouais, c'est super.
Et tout le monde a vu Anatomy d'une chute ou pas?
Non, pas encore.
Ah, c'est chambé, allez-y, qu'est-ce que vous attendez?
Moi je vais pas au cinéma. J'attends que ça sorte sur.
Tu vas pas au cinéma?
Ouais.
Jesus.
Pourquoi?
Parce qu'il y a des connards comme vous déjà dans la salle. Non, j'aime bien être tranquille tout seul chez moi pour regarder un film.
Mais t'aimerais pas avoir un home cinéma chez toi avec un gros.
J'ai un vidéo proche avec un grand écran.
Incroyable.
C'est pas le truc le plus ouf, mais du coup, c'est aussi pour ça. Etc.
Un comédien français dont je tairai le nom, mais qui a un cinéma à Paris. Et la dernière fois, il nous a laissé les clés avec Freddy et Aurélien. Et on allait mater un film chez lui. Et c'est incroyable.
Wow. Ah, il a genre un
et je me suis toujours dit, mais le jour où je gagne beaucoup de sous, je me fais un ciné.
Oui, ça c'est clair. C'est fou. Ça, c'est sûr.
Il a 16 places. Tu peux inviter tes potes. Et c'est comme un...
C'est quoi le programme?
C'est un projecteur de cinéma. C'est le programme du cinéma? Non, c'est un projecteur de cinéma. Si, mais tu mets Netflix dessus. C'est ouf. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit goal, quoi, avoir un cinéma chez soi.
J'avoue.
Et tu peux regarder. Et nous, on a regardé. Putain, d'ailleurs, on a regardé quoi? On a regardé.
Un film de
Boulard. Boulard. Ouais, non, voilà. Merci. Boulard, c'est vraiment le pire mot de
les,
France.
Les deux ados, là, qui ont 40 ans.
Yes.
Kian et moi?
Non. Comment?
Kian et moi?
Non. Non, avec Will Ferrell et.
John C. Reilly.
Step Brother. Oui. On a regardé ça.
C'est bien.
C'était fou quoi de regarder ça dans un ciné, t'as la clim, c'est incroyable. Enfin bref, c'est pardon, peut-être j'en fais trop sur ces cinémas.
Non, mais... Severance, je le recommande, mais Severance sur Apple Plus, c'est disponible sur MyCanal, mais vraiment.
L'été dernier, sorti l'été dernier sur.
Waouh!
Je crois que c'est un peu en embrouille. Wow. En plus, il y a eu la grève et je crois que les créateurs sont en embrouille, donc on attend la suite.
On attend la suite quand ça viendra, quand ils auront gardé
une série sur Apple TV.
J'ai entendu parler, mais ça parle de quoi?
Ça parle de ce. Ouais. C'est un peu compliqué. En gros, c'est de la SF et c'est quand tu vas au travail, tu arrives au travail, en fait, ils t'ont scindé le cerveau. Okay. Donc, il y a une version de toi qui va au travail, toi, tu n'es pas au courant. Donc, en gros, tu passes la porte, tu ressors. Et toi, tu ne sais pas ce que tu as fait dans l'entreprise. Okay. Donc, c'est un peu secret. Sauf que tu vois aussi le côté de l'entreprise. Donc, en gros, tu vois la version de toi.
Okay. Qui est resté, qui est rentré.
Ça, c'est le début. Hein.
C'est l'épisode 1.
C'est l'intro, ça.
Tu
vois juste la version de toi. Qui est en boucle dans un bureau parce qu'à chaque fois qu'il passe la porte, il réapparaît et il retourne au travail.
Ok.
Ouais.
Comment Severance?
Severance.
Et quand t'es dedans, tu ne sais pas qui tu es dehors.
D'accord.
Oui, toi, t'es né, y a la version de toi qui est née dans un bureau un jour qui a passé la porte. Qui a dit, qu'est-ce que je fais là? Ben, vous allez travailler maintenant. Et tu travailles en boucle toute ta vie. Sauf qu'en ce temps-là, il y a la version de toi qui
est exceptionnelle.
Bravo aux auteurs.
Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué à expliquer.
Ouais.
Mais le premier épisode est un peu long pour ça. Tu te dis, mais attends, ça
le
va où
le point de vue inverse, c'est horrible en fait. C'est-à-dire que d'un point de vue, je te dis, il faut que tu ailles travailler au bureau.
Ouais.
Ok. Mais t'inquiète pas, vu que c'est secret, on va te faire un truc dans le cerveau qui fait que juste tu passes la porte, tu ressors.
Ouais, c'est ta fin de
toi, tu dis, mais c'est génial, je travaille jamais, je touche de l'argent. Ouais. Et je me sens jamais travailler, non. Mais en fait, il y a une version de toi qui, elle, n'apparaît qu'au bureau, qui est consciente, qui travaille. Et qui ne sort jamais du bureau.
Ouais, c'est un peu un épisode de Rick and Morty, quoi.
Ouais,
exactement.
C'est un point de départ.
De Rick. Okay.
Sauf que contrairement à Rick and Morty, ils en font une série.
Ouais.
Rick and Morty, ils disent, bon, on va en faire un épisode.
Ok. Putain, ça donne envie.
C'est génial. C'est vraiment, c'est d'une écriture.
Et à la fin.
Non, mais ça t'emmène dans des émotions qui sont vraiment belles. Et tu te dis, ah putain, c'est cool, j'ai le droit d'être ému, là.
Tu prends des notes pour la vie d'après.
Merci encore et vraiment félicitations pour ce que vous faites.
Merci.
Bravo,
vous,
vraiment, c'est exceptionnel de vous avoir. Allez voir les spectacles de Pana sur Netflix, allez voir le spectacle de Marina aussi sur Canal. Vraiment, vraiment, allez voir ces gens qui sont inspirants. Si vous aimez l'humour, si vous êtes vraiment des must-see, le livre de Pana est toujours disponible.
Je ne vais pas le montrer comme.
Je reçois Panayotis Pasco. Marina, j'ai pas ton livre.
C'était Nikos.
Pas encore. Non, c'est non, ça aurait pu être.
Mais... Redescend.
J'ai cru que c'était Nikos. Non.
Redescend.
Nikos. Ça va être genre. Ah, je suis nul. Attends.
Non, t'es pas nul. T'es un excellent imitateur.
Oui, je reçois. Oui, forcément. Oui, c'est ça qui est bien. C'est bien. C'est Panayotis. Il est super.
Les Grecs, Calimera. Chaque fois qu'il me croise. Alors c'est vrai. Calimera, mon frère.
Alors que Ardisson.
Une fois que je te dis que je suis pas grec.
Ardisson, c'était plus.
Je reçois.
Et non, formidable. Et vraiment, ruez-vous sur la nouvelle de Marina Rollman dans le livre qui s'appelle Désiré. Petit cadeau aussi à offrir. Merci, parce que ça fait du bien. Ça m'a fait du bien. C'est inspirant. Ça donne envie d'écrire. Je souhaite à Marina qu'elle fonce dans son bouquin et qu'elle écrive. Merci. Parce qu'on a envie d'en savoir plus. On a envie que t'en fasses plus.
Très bien.
Partagez cette émission, dites-le avec enthousiasme. Il y a eu un épisode qui est sorti, ça m'a intéressé. Partagez-le. C'est grâce à vous que l'émission se fait connaître. Et puis, bah, c'est cool. Ça donne du sens à ce qu'on fait et ça nous fait grave plaisir. On ressent des émotions et après, on est content chez nous à ne pas les exprimer.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.